Bonjour à tous, on commence presque à l'heure. Merci beaucoup de votre présence. Je suis ravie de vous accueillir au siège de l'Association des maires pour une session d'information sur le budget communal et intercommunal qui sont animés par les représentants de l'Association des comptables publics avec lesquels nous collaborons étroitement depuis de nombreuses années. Collaboration tout à fait unique en France, il faut le dire. Soyons fous, mais il faut dire qu'ils sont tellement sympathiques en Meurthe-et-Moselle, vous vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas dans votre département. Et donc, on a une collaboration très fructueuse. On a déjà donc élaboré ensemble le budget 2014 simplifié, les régies, les pièces justificatifs et les contrôles du comptable. On a un certain nombre d'exemplaires qui paraît-il traînent, mais bon, on verra où ils traînent. Et puis, ceux qui n'ont pas eu forcément le temps de faire le budget 2014 parce qu'ils viennent, ils étaient élus et que c'était les prédécesseurs qui avaient fait le budget ou ceux qui l'ont fait à toute allure parce qu'ils n'ont pas trop eu le temps de tout faire. Voilà le temps pour pouvoir poser un certain nombre de questions à nos deux spécialistes. On va donc développer des éléments fondamentaux, mais également quelques points un peu plus précis, comme l'affectation des résultats, un des grands moments, il faut dire, du budget. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'au 15 avril 2015 pour faire votre budget primitif. Date qui a été changée pour les plus anciens d'entre vous, puisqu'on est passé du 30 mars au 15 avril de manière pérenne. Je vous fais une parenthèse, parce que vous allez recevoir un mail, donc comme ça je vous le dis. Je rappelle à tous que vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour faire les demandes de fonds d'amorçage pour les rythmes scolaires. Je rappelle que même si jamais vous êtes regroupé au sein d'un syndicat ou d'un RPI, c'est la commune qui doit faire la demande. Ne me demandez pas pourquoi, c'est dans le cadre de la simplification parisienne que les choses se font comme ça. Donc je rappelle que c'est chaque commune qui doit faire les demandes pour le fonds d'amorçage. Si vous ne l'avez pas fait avant le 28 novembre, c'est fini, vous n'en aurez pas. Vous ne pourrez pas le toucher sur l'année scolaire 2014-2015. Deuxième élément sur lequel on avait également attiré votre attention, c'est la fiscalité en matière d'urbanisme sur les taxes d'aménagement. Si jamais vous aviez pris une taxe d'aménagement lorsqu'elle a changé, elle est passée de TLE en taxe d'aménagement en novembre 2011 et que vous aviez mis une durée limitée de 3 ans, je vous rappelle que ça tombe donc en novembre 2014 et qu'il faut que vous ayez délibéré avant le 30 novembre 2014 pour que ça puisse être opérationnel au 1er janvier 2015. Par contre, si vous n'aviez pas de durée limitée dans votre délibération, vous n'avez rien à faire, ça continuera comme ça, sans problème. Voilà, je ferme cette parenthèse, je passe tout de suite la parole à nos fidèles comptables, que sont M. Bardot, le président de l'association et comptable à Saint-Nicolas-de-Port, et M. Tosi, vice-président et comptable à Essey-les-Nancy. Et je vous souhaite une excellente session de travail. Merci beaucoup.
Donc, excusez, j'ai la voix un petit peu fatiguée ces temps-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est une information donc, sur le budget communal et intercommunal. On va reprendre, on ne va pas rentrer automatiquement dans tous les détails, etc. etc. On va éviter de se perdre dans certaines choses qui sont très pointues, sauf si vous avez des questions, bien entendu, auxquelles nous répondrons. Et donc, on va essayer de vous... le budget communal, comme tout acte budgétaire, c'est un acte fondamental. Puisque c'est le budget, c'est quoi? C'est le nerf de la guerre, c'est les crédits budgétaires, c'est l'argent qui va vous amener, qui va vous permettre de faire vivre la politique que vous avez décidé de mettre en place. Donc, c'est pour ça que le budget est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui n'est pas plus compliqué qu'il n'y paraît, mais il y a des choses qu'il faut absolument maîtriser pour éviter d'avoir des problématiques par la suite avec le contrôle de légalité que fait jouer la préfecture et les éventuelles saisines avec les chambres régionales de comptes qui peuvent retarder, bien entendu, l'exécution du budget que vous avez voté. Donc voilà. Alors, bon, je ne vais pas laisser Michel Tosi tout dire. Je prendrai un petit peu la parole. Mais bon, faudrait être complaisant.
Mais je suis complaisant.
Oh, mais ça, je sais.
Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. On est ravis. Non, je ne prends pas le micro parce que je ne suis jamais à côté. Donc, on est ravis de vous accueillir. Je voudrais simplement poser une petite question. Quels sont ceux d'entre vous qui n'ont jamais élaboré de budget ? Bien. C'est bien. Ah oui, oui. Le support, vous l'avez sur le site de l'association, donc vous aurez l'ensemble. C'est pas la peine de prendre des tonnes de notes. Hein. Donc, c'est bien. Il y a donc des gens parmi vous qui n'ont jamais vu l'élaboration d'un budget, qui en tout cas n'ont jamais élaboré, qui sont arrivés aux commandes d'une collectivité locale, qui ont pris un budget en cours, qui ont simplement entériné un budget qui était déjà élaboré presque quasiment. Donc on va vous montrer maintenant un petit peu, et c'est bien de commencer au mois de novembre, comment va s'élaborer le budget entre ben maintenant, vous commencez à vous poser les questions, et puis ben la date du 15 avril qui sera la date butoir, date à laquelle vous devrez avoir voté votre budget, et pour le 30 avril, date à laquelle vous devrez l'avoir transmis en préfecture pour le contrôle de légalité. Donc ce qu'on va, on va voir un peu le cadre budgétaire, vous expliquer un peu le cadre budgétaire, vous en avez une idée. Hein.
Je vous oblige à prendre le micro en cause de l'enregistrement.
Ah mince,
un qui bouge.
Je vais le prendre, un qui bouge.
Non, mais attendez, celui-là, vous avez suffisamment de câbles avec celui-là.
Non, mais c'est pas une question, c'est que le truc est là, moi je suis là.
Oui.
Ça va pas toujours... Bon, enfin bref. C'est bon. Bon, je vais essayer. Donc... On va vous montrer le cadre budgétaire, je pense que vous le voyez déjà un petit peu, vous l'entendez, vous en entendez parler. On va vous voir ce qui est un élément important et essentiel, parce qu'une fois que vous aurez tout rassemblé, que vous aurez élaboré votre budget, le 30 avril, il faut bien vous dire que dans un premier temps, vous allez complètement oublier l'aspect budgétaire. En d'autres termes, vous allez vous en foutre royalement. Parce que vous aurez élaboré le budget sera arrêté. Maintenant, l'essentiel du boulot va commencer pour vous, c'est l'exécuter le budget. Hein ? Donc je sors d'un appel d'offres, ben, on a voté des crédits, on a prévu des crédits, mais maintenant il va falloir mettre en musique le budget tel qu'on l'a prévu. Mais l'élément important quand même, c'est l'élaboration du budget. Et ensuite, construire un schéma d'équilibre, oui. Alors dès le départ, on le pose, on le rappellera, vous oubliez tout ce que vous entendez à la radio, 3,5%, les critères de Maastricht, les déficits budgétaires, on respecte pas, c'est des états d'âme que vous n'aurez pas, pour une raison... bête et méchante, c'est que vous devez absolument voter votre budget en équilibre réel, section par section. Pour ceux qui ne savent pas, il y a une section de fonctionnement, gestion courante, et une gestion d'investissement pour tout ce qui est les opérations d'investissement. On y reviendra. Mais vous devez voter des budgets en équilibre. Donc, oubliez l'idée d'avoir à faire des emprunts pour assurer le financement du paiement de vos salaires, c'est complètement impossible. Ça peut arriver, mais c'est impossible. Mais c'est des cas particuliers.
C'est juste l'État parce qu'il est mal géré, tandis que les communes, elles sont bien gérées.
Et je laisse à Madame Pinot la responsabilité.
Oui, c'est vrai. Il ne faut pas regarder ce que fait l'État. Hein, puisque l'État, vous savez, votre budget en déséquilibre, mais qui est équilibré, par son déficit. Donc, c'est comme ça qu'on s'entend à la comptabilité de l'État. Donc, c'est absolument pas permis pour les collectivités locales, les établissements publics locaux, quels qu'ils soient. Donc, toutes les notions, les références à l'État doivent automatiquement vous passer au-dessus. Sauf, on verra pour certaines recettes que vous ne toucherez plus, qui viennent, bien entendu, des problématiques de l'État. Mais le budget des collectivités locales, ces deux budgets ne ressemblent absolument pas à celui de l'État. Déjà, même la comptabilité est tout à fait différente.
Alors, quelques grands principes budgétaires. Alors, ça fait un peu faculté, scolaire, etc. Mais derrière ces notions, il y a des éléments essentiels du fonctionnement du budget. Donc, l'annualité. Vous votez un budget par an. Pas deux. Un budget général, il est amendé. Effectivement, comme le budget de l'État, ce sera ma dernière référence au budget de l'État, puisqu'en ce moment, on vote la loi de finances rectificative. Donc, vous voterez, en tant que de besoin, des décisions modificatives, une, deux, nous verrons dans quelles conditions. Mais il n'y a qu'un seul document unique qui va du 1er janvier au 31 décembre, qui est, il y a un budget. Alors, il y a un budget pour la commune, il y a un budget pour les établissements rattachés, pour le CCAS, pour l'eau, pour l'assainissement. Mais chacun de ces établissements, il y a un budget. On est bien d'accord. Deuxième élément, l'équilibre réel. Vous entendrez souvent parler. Ça veut dire, c'est une notion qui est à rapprocher. On y reviendra. Très rapidement, vous allez voir. L'ensemble des dépenses et des recettes que vous allez inscrire au budget sont des recettes que vous êtes potentiellement en situation de faire et d'encaisser. On n'inscrit pas au budget des dépenses folkloriques et des recettes bidons. On est bien d'accord. Il y a des tentations de temps à autre, hein. Soyons clairs. Mais le budget dépense, recette réelle, ce que l'on a l'intention de mobiliser, ce qui nous sera versé et ce que l'on a l'intention de dépenser.
Oui, la notion d'équilibre, hein, c'est pour ça qu'il est précisé réel. Parce qu'une notion d'équilibre, tout le monde sait que c'est, il faut que ce soit équilibré, hein, autant de dépenses que de recettes, etc. Ça, c'est l'équilibre mathématique. Par contre, derrière cette notion d'équilibre réel, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez mis dans votre budget, hein, obligatoirement certaines choses. Par exemple, vous ne pouvez pas dire, j'équilibre pas mon, pour équilibrer mon budget, par exemple, je ne vais pas mettre les emprunts que je dois payer. Par exemple, hein, vous seriez équilibré mathématiquement, mais vous ne seriez pas en équilibre réel. Vous devez trouver le financement de vos emprunts. Hein, autofinancer vos emprunts. Ça fait partie, hein, de tout ce qu'on appelle l'équilibre réel. Donc c'est pour ça, cette notion, hein, d'équilibre n'est pas uniquement un jeu. Hein, j'ai autant de dépenses et de recettes de fonctionnement, et j'ai autant de, dans la section fonctionnement, et j'ai autant de dépenses et de recettes d'investissement dans la section d'investissement. Il y a d'autres notions derrière qui viennent en jeu, et c'est sur ces notions-là que la plupart du temps, le contrôle de l'égalité regarde. Si vous votez un budget en déficit, là c'est facile, c'est vite vu, il y a un déficit qui est nettement identifié, donc là vous avez un déséquilibre. Mais vous pouvez voter un équilibre, mais la préfecture qui regarde, donc qui fait ce contrôle de l'égalité, qui n'est pas juge de l'égalité, mais qui fait ce contrôle de l'égalité, la préfecture va constater si votre budget, en fait, est sincère, en gros, hein, c'est une notion de sincérité, hein, et s'ils s'aperçoivent qu'il n'est pas sincère à partir de certains points, parce qu'ils ont quand même des éléments, eh bien, à ce moment-là, ils risquent de vous retoquer ou alors de vous faire un courrier vous demandant des précisions sur votre budget. Donc, équilibre, ce n'est pas uniquement mathématique. Il y a d'autres choses derrière.
On ne vote pas 11 mois de paiement des salaires en se disant on verra dans le cours d'année. Hein ? Donc, on vote 12 mois de paiement des salaires. Et il faut trouver, bien évidemment, les équilibres. Les recettes pour assurer le financement. Hein. L'universalité du budget, vous l'avez déjà, vous le pratiquez, enfin en tout cas vos collaborateurs le pratiquent de manière... On ne fait pas de compensation entre les dépenses et les recettes. Comptablement, le budget doit retracer l'intégralité de vos recettes et d'un autre côté, l'intégralité de vos dépenses. Vous savez qu'il existe des notions de reversement sur des sommes que vous percevez. Si vous avez voté pour certaines collectivités la taxe sur les logements vacants, vous avez perçu les logements vacants l'année dernière, vous avez tout touché, mais cette année, certains redevables ont contesté le fait que la vacance résulte de leur fait, que le logement n'est pas occupable. Cette année, l'État va vous demander de reverser une partie des logements vacants que vous avez perçus l'an dernier. Vous pourrez se dire, d'un côté, il y a les recettes de cette année, de l'autre côté, il y a les dépenses concernant l'année précédente, on va faire la contraction. Non. Dans votre budget, vous verrez apparaître la totalité de ce que vous avez voté en impôt, et d'un autre côté, vous verrez apparaître le reversement que vous avez effectué au profit de l'État au titre bien des taxes sur les logements vacants qui étaient indus, entre guillemets. Mais c'est intéressant également pour vous, hein, on est bien clair, c'est utile également pour vous, cette absence de contraction, hein. Même chose, on n'affecte pas une recette à une dépense, c'est la même chose. On ne dit pas que les centimes servent à payer les salaires et que quand j'ai plus de centimes, je ne paie plus mes salaires ou vice-versa. Hein, on est bien d'accord. Il y a une masse budgétaire en dépenses, il y a une masse budgétaire en recettes. L'ensemble du financement est assuré par les deux.
Alors, le document budgétaire est unique. Ça, c'est la règle. Il y a un seul budget. unicité des documents budgétaires. Ces règles-là, vous les trouvez partout. Hein, c'est pas réservé. Là, cette fois-ci, on peut faire le pendant avec l'État. On retrouve exactement les mêmes règles à ce niveau-là. Donc, document budgétaire unique, c'est ce qu'on appelle le budget principal, le budget de la collectivité. Avec les évolutions des activités des collectivités, on a créé ce qu'on appelait des budgets annexes. En particulier pour tout ce qui est industriel et commercial, l'eau, l'assainissement, les lotissements, etc. Les zones d'aménagement, etc. Des tas de choses que les communes peuvent faire. Et pour assurer une lisibilité parfaite de ces opérations-là, qui sont quand même spécifiques, puisqu'elles doivent s'autofinancer elles-mêmes. L'eau, l'assainissement, normalement, ben, c'est la facture d'eau, c'est la facture d'assainissement qui doit financer ces sections-là. Il a été décidé de créer ce qu'on appelle des budgets annexes. Vous en avez quasiment tous, des budgets annexes. Les plus fréquents, c'est l'eau et l'assainissement, mais on peut trouver des lotissements, en plus, surtout avec la règle sur la TVA avec les lotissements qui est arrivée il y a quelques années. Donc, il a créé ça. Donc, ça permet une lisibilité exacte et de pouvoir. Alors, ce n'est pas la spécialisation des crédits, ce n'est pas l'affectation de crédits, mais on a une vision exacte de l'activité communale pour tout ce qui est activité communale, mais tout ce qui est commercial, industriel et commercial, on a une vision via le budget annexe. C'est pour ça qu'on vous a obligé, sans doute, je suppose, on vous a obligé à ouvrir des budgets annexes.
Encore une fois, ça a un intérêt économique évident. Savoir combien vous coûte l'eau, combien vous coûte l'assainissement, c'est quand même non négligeable. Noyé dans le budget général, rien n'empêcherait l'impôt de financer ce qui est en fait une redevance, ce qui est en fait une consommation individuelle. Tiens, j'ai pas vu la sincérité a disparu. Ah bon?
Elle fait partie.
Bon, c'est bien. Voilà l'environnement communal. C'est histoire pour ceux qui démarrent dans la carrière d'élu local, à quelque titre que ce soit, d'avoir une idée un petit peu de l'ensemble de ceux ou des institutions qui gravitent autour de la commune. Donc la commune et son budget principal, ses budgets annexes, on vient de parler, eau, assainissement, ordures ménagères, lotissement. D'un autre côté, le CCAS, vous avez tous un CCAS. La caisse des écoles, c'est quelque chose qui existait et qui commence à revenir, en tout cas du côté des CES, certains recréent des caisses des écoles, l'objectif étant de démontrer aux instituteurs qu'on dépense bien les sommes qu'on leur annonce. Donc ça permet d'avoir une transparence vis-à-vis des instituteurs et du personnel scolaire. Bon, les sociétés d'économie mixte, ça existe. Grosse collectivité locale, en règle générale. L'office public d'HLM, les hôpitaux. Bon, il y a des grosses collectivités. Office public d'HLM, doit y avoir Toul. Qui est-ce qui a encore Lunéville, qui a un rapport. Mais le rapport est souvent institutionnel. C'est bien souvent le maire de la ville de Lunéville ou le maire de la ville de Toul qui est en même temps président du conseil d'administration et de l'hôpital et de l'office municipal. Mais il peut y avoir des liens entre les deux. Économiquement, rien ne l'interdit. Ensuite, les traditionnelles subventions que vous versez, ce sont l'ensemble des associations communales, voire nationales. Vous n'êtes pas limité en versant des subventions uniquement aux gens de la collectivité locale. Encore faut-il que ce soit des associations reconnues d'utilité publique, on est bien clair, à l'échelon national. Bon, le comité des fêtes et l'ensemble des autres associations. Voilà un peu l'ensemble de ce qui fait l'environnement de la commune. C'est pas sans incidence, bien évidemment, sur l'élaboration du budget. Le centre d'action communale, vous savez très bien qu'il va falloir verser une subvention. Il n'a pas véritablement de ressources propres, quelques dons plutôt. Je ne pense même plus qu'existe le reversement des concessions de cimetière. Un tiers des concessions de cimetière était dans le temps reversé au CCAX. Ça existe toujours, mais c'est plus pratiqué. C'est pas obligatoire. Ah non, mais
certaines continuent.
Très bien. C'est un mode de financement comme un autre. On est bien d'accord. Voilà en ce qui concerne l'environnement. Est-ce que vous voyez autre chose pour vous qui pratiquez Vous avez à peu près l'ensemble de vos principaux interlocuteurs.
On mettait l'association des maires en premier quand même.
L'association des maires.
Dans les subventions.
Non, mais là, c'est des contributions, même. C'est pas du tout. C'est pas le même chapitre d'imputation. Alors voilà. Donc, une des premières caractéristiques des dépenses, on va y revenir bien sûr, elles ne sont pas globales, mais elles sont spécialisées. Vous le savez, vous allez le voir, il y a 7 à 8 chapitres en dépenses, 7 à 8 chapitres en recettes, 5-6 en investissement, 5-6 en recettes en investissement, au titre desquels vous allez faire des dotations et qui devront être exécutées dans les conditions fixées par ces dotations. On va y revenir. Et cela veut dire que globalement, il y a une dotation spécifique pour les salaires, il y a une dotation spécifique pour le fonctionnement général de la commune. Il y a une dotation spécifique pour les indemnités des élus, les contributions aux syndicats et les... et les associations, pardon, et les subventions. Donc, il y a des spécialisations. On va voir quel est l'intérêt de ces spécialisations.
Voilà, la sincérité.
Voilà, je savais bien qu'elle était quelque part. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au départ en matière d'équilibre. Sincérité veut dire tout est inscrit. Ce qui est inscrit sera exécuté, doit être exécuté. En dépense, ce qui est inscrit en 7, vous avez en main les éléments prouvant que ces recettes vont être réelles et non pas rêvées. Vous verrez qu'en matière de dotation de l'État, par exemple, vous aurez un chiffre, donc celui-là, même s'il fait rêver ou s'il ne fait pas rêver, ce sera ce chiffre-là que vous toucherez et rien d'autre. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, le majorer. On est bien clair, hein ?
Là où il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas équilibrer votre budget. Si vous avez un budget, vous avez des difficultés à l'élaborer au plus juste. C'est des choses qui peuvent arriver. Toutes les communes ne sont pas milliardaires, millionnaires, etc. Donc, pour ça, il faut toujours réfléchir aux recettes que vous mettez. Et là, je me situe en fonctionnement, puisqu'on verra après que le nerf de la guerre, c'est le fonctionnement. En fonctionnement, vous avez des recettes qui sont connues, comme il vient de vous le dire, les dotations État et compagnie, etc. La fiscalité, elle est connue, c'est vous qui l'avez décidé, mais à ce moment-là, vous la connaissez. Après, il peut y avoir d'autres recettes. C'est là où il faut être très vigilant sur les autres recettes, de ne pas les gonfler. Elles ne doivent pas devenir une variable d'ajustement pour essayer d'équilibrer un budget. C'est la dépense qui doit être diminuée si vraiment vous avez un problème d'équilibre de budget. Parce que la recette, si elle n'est pas sûre et certaine, elle ne rentrera pas. Par contre, la dépense, du moment où vous l'aurez inscrite, vous pourrez la dépenser. Donc, à terme, qu'est-ce qui va arriver ? Ben, vous aurez moins de recettes que de dépenses et vous allez générer des déficits. Alors, sur une gestion, ça peut marcher. Mais si c'est récurrent, ben, vous allez vous retrouver en très grande difficulté. Et quand je parle de déséquilibre... d'équilibre réel, pardon. Là, vous allez être dans un déséquilibre réel. Vous aurez ajusté, mais vous ne serez pas. On verra. Alors, vous avez des éléments qui vous permettent de visualiser. Quand il vous dit, par exemple, mettre les dépenses doivent être exécutées en fonction de vos prévisions. On constate parfois que des dépenses sont inscrites au budget, ne sont pas exécutées. Vous avez un tableau, vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le tableau de bord de l'élu. Qui est sur une émanation d'Hélios. Donc normalement, tous les maires doivent pouvoir y avoir accès. Ce tableau de bord, elle vous donne l'évolution de la consommation de vos prévisions budgétaires. On ne parle pas d'un crédit, d'un chapitre ou d'un machin, etc. On parle de manière globale. En novembre, par exemple, si on sort celui d'octobre qui vient de sortir, si on s'aperçoit qu'une collectivité a consommé 40% des dépenses prévues de fonctionnement, c'est que la prévision budgétaire, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, il n'y a jamais de jugement de valeur de notre part. Mais il y a un problème, il y a quelque chose qui fait que soit tout va nous arriver dans les deux derniers mois, ce qui ne nous arrange pas, soit vraiment il y a une problématique dans la prévision budgétaire. C'est une terminologie très importante, la sincérité.
En fait, un budget, pour être un bon budget, on va avancer un petit peu, il faut surestimer un peu ses dépenses, sous-estimer un peu ses dépenses, pardon, et sous-estimer un peu ses recettes. Hein ? Donc les dépenses, non, j'ai dit une connerie. Il faut surestimer les dépenses, on est bien d'accord, et sous-estimer les recettes. Si vous arrivez à équilibrer votre budget dans ces conditions-là, à la fin de l'année, selon toute vraisemblance, vous n'aurez pas de mauvaise surprise parce que vous aurez presque toutes vos, peut-être un peu plus que vos recettes, et vous aurez certainement moins que vos dépenses. Donc vous aurez un bel excédent. Bon, mais c'est une possibilité, une manière d'agir. Mais c'est la meilleure solution. Effectivement, comme dit Paul, au fil de l'année, il faut vérifier les conditions d'exécution de vos dépenses, notamment en matière de fonctionnement, notamment en matière de frais de personnel. En ce moment, on va arriver à la fin de l'année, il faut véritablement faire une estimation sur le chapitre des frais de personnel pour voir si, à la fin de l'année, on arrivera bien à tout payer. Surtout si vous payez une prime en fin d'année, etc. Donc vérifiez que les dotations que vous avez évaluées, certainement très bien, mais on ne sait jamais pour X ou Y raison, si vous avez tous les besoins pour payer, bah, notamment le salaire de décembre, qui est quand même un salaire un petit peu important. Alors, vous avez une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants. Y a-t-il ici des communes de plus de 3500 habitants ? C'est bien. Donc, vous le savez, vous avez une obligation d'un débat d'orientation budgétaire 2 mois avant le vote du budget. C'est un délai maximum, hein. Mais il ne faut pas que le débat d'orientation budgétaire ait lieu le vendredi et que le lundi, le budget soit voté. On est bien d'accord, hein. Il faut laisser le temps, autant aux gens de digérer le débat d'orientation budgétaire. C'est un peu un élément, entre guillemets, au bon sens du terme, politique, c'est-à-dire là, vous fixez un peu ce quelle va être la politique future de la collectivité locale et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre et comment vous allez évaluer ces moyens. Donc, c'est une manière de prévoir. Après, le budget va traduire le DOB, hein, et va traduire dans les chiffres exactement ce que vous allez pouvoir faire. Mais là, notamment dans le cadre du DOB, vous pourrez raisonner au-delà de l'année. Il est bien évident qu'il y a des projets, je viens d'un appel d'offres, le projet va se faire sur 3 ou 4 ans, c'est le réaménagement d'une passage dans un village, donc ça va se faire en plusieurs phases. Mais dès le départ, maintenant, on peut se dire que le DOB peut en parler parce que ça va, entre guillemets, impliquer les 3-4 années suivantes en termes de budget.
Alors, si vous faites partie d'un groupement, que ce soit syndical ou PCI, s'il y a une commune de plus de 3500 habitants dans ce groupement-là, le DOB est obligatoire aussi. Hein, moi, je prends l'exemple sur Saint-Nicolas. Hein, j'ai des petits syndicats où j'ai eu des communes de moins de 3500, mais il suffit que Dombasle soit dedans ou que Saint-Nicolas soit dedans. Comme ce sont des communes supérieures à 3500, elles sont obligées d'organiser un DOB. Alors parfois, c'est un peu affolant parce que c'est des syndicats qui ont très peu d'activité, hein, sur l'année, mais elles ont obligation d'organiser un DOB dans les mêmes conditions que pour les communes de plus de 3500 habitants. Par exemple, je prends les communes de membres de la CUP, et bien, même si 1200 habitants, la CUP est obligée d'organiser un DOB. Il y a quand même des communes de plus de 3500 sur Villain-Vermois, celle en Vermois, il y a des communes de plus de 3500 habitants. Donc, il y a obligation pour la Comcom d'organiser le DOB. Et le DOB, c'est pas à discuter dans le vague, etc. C'est quelque chose qui se prépare, qui s'organise. Hein, c'est des choses qui sont dites. Il faut que ce débat-là soit un vrai débat d'orientation budgétaire. C'est pas 3 chiffres qui sont balancés comme ça. C'est vraiment de l'orientation budgétaire. Donc c'est vraiment une incidence. Et c'est pour la transparence pure et simple, hein, pour qu'il y ait une meilleure connaissance des choses qui vont se développer. Alors, qui prépare le budget?
Ça, c'est essentiel.
C'est vous.
Donc, qui prépare le budget? Le maire. Le maire et encore le maire. Pas tout seul, hein, bien évidemment. Mais qui prépare le budget? C'est le maire. Mais l'élément important, vous verrez que ça aura des conséquences sur les conditions dans lesquelles la commune est gérée, qui vote le budget? Le conseil municipal. On a vu, on le voit de temps à autre, des conseils municipaux qui ne s'entendent plus, mais le maire peut toujours proposer les budgets qu'il veut, le conseil municipal peut très bien les amender, peut très bien les refuser. Donc n'oubliez pas qu'en matière budgétaire, celui qui a en fin de l'affaire le pouvoir, c'est le conseil municipal. Bien évidemment qu'il exécute, on revient vers le maire, c'est lui qui exécute et l'ensemble des services municipaux, bien évidemment. Et ses adjoints et l'ensemble des services municipaux.
Cette notion de vote du budget est importante. Seule l'Assemblée délibérante a le pouvoir de voter, de décider sur la matière budgétaire. Ça va au-delà du budget, ça va sur les décisions modificatives, ça va au-delà de tout ce qui est budgétaire. Passe obligatoirement par le conseil municipal ou le conseil syndical, etc., etc., hein, par l'Assemblée délibérante. C'est une obligation. Il n'y a pas de délégation de pouvoir au maire en matière budgétaire. L'exécution, c'est de sa fonction. Ce n'est pas une délégation, il exécute le budget, hein, puisqu'il le prépare, il le fait voter, il exécute. Mais il n'y a pas de délégation. Le conseil municipal ne peut pas déléguer, par exemple, ben le maire pourra, à lui tout seul, faire des décisions modificatives.
Bonjour. Si le budget est refusé, alors est-ce qu'il est remis en question, ce seul budget ?
Si le budget n'est pas voté,
il sera. Et si vous êtes hors des clous, parce qu'il y a des délais hein, dont on vous a parlé, si le budget est refusé, eh bien, ce n'est plus l'Assemblée délibérante qui aura la main, ce sera l'organe de l'égalité et la Chambre régionale des comptes qui prendront la main. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans budget. Parce que nous, on est derrière. Parce que moi, si je n'ai pas de budget, je ne peux pas payer grand-chose. Alors, pas si hard que ça, il y a des souplesses. Mais disons que nous, on a besoin d'un document qui, normalement, doit être voté par une assemblée délibérante normale. Si l'assemblée délibérante, pour des raisons X, Y, Z, hein, le problème n'est pas là, ne suit pas le maire, et ça s'est vu, hein, c'est pas un cas d'école. C'est vraiment pas un cas d'école, hein, ça s'est vu. Si le maire n'est pas suivi, eh bien, résultat des courses, il n'y a pas de budget voté. S'il n'y a pas de budget voté, c'est la préfecture et la Chambre générale des comptes qui élaborent le budget, mais à leur façon.
Attention.
À leur façon.
L'équilibre, il est simple.
Non, on ne parle plus de politique budgétaire. On
là, il ne se pose pas de questions. Hein,
de mathématiques. C'est que de la mathématique. Bon, j'ai ça à payer, j'ai pas de recettes, plus 20% des impôts.
Parce qu'il a pas ça. Ça se règle comme ça. Hein.
Ah oui, en règle générale, c'est toujours comme ça.
Dans le passé, on a eu la ville d'Angoulême qui a eu des problèmes avec son maire. Le jour où la Chambre régionale des comptes a mis son nez dans les affaires, elle a voulu équilibrer le budget, elle a ajouté 30% aux impôts, puis ça a été terminé. Voilà. Parce qu'elle n'est pas là pour assurer la gestion de la collectivité locale. Elle se contente de respecter certains des éléments, elle inscrit les dépenses obligatoires, ce qui est nécessaire au fonctionnement courant. Après, il y est montant, 3 millions, ben 3 millions de plus aux impôts, ça fait 10, ça fait 20, ça fait 50%, elle ne veut pas le savoir. On est bien clair.
C'est pour ça que c'est un travail qui doit se faire en commun. Alors dans les grosses collectivités, il y a des commissions, etc. Bon, c'est... Mais dans les petites collectivités, il faut que l'ensemble, à la limite, hein, des conseillers municipaux aient une information, même s'il n'y a pas de DOB et compagnie. Hein. Mais il faut qu'il y ait une information pour éviter, en effet, ce qui pourrait être un clash en fin de présentation. Hein. C'est pour ça qu'ici, on vous montre hein, les commissions municipales, les commissions des finances. Une fois que tout ce tamis est passé, normalement, et c'est dans ces organes-là que le maire, si on a des choses à lui dire, hein, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord sur telle prévision, etc., ce qui est possible, c'est dans ces commissions-là que normalement des choses doivent se faire. Il peut y avoir après des désaccords au sein du conseil municipal, hein, parfois c'est plus politique qu'autre chose, mais si déjà il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là, bon, à mon avis, ça passe. Sauf problème très très lourd au sein d'une municipalité, et ça peut arriver aussi, bien entendu. Mais normalement, il y a quand même, bon, le maire, normalement, n'arrive pas devant le conseil municipal le 14 avril en disant, bon, ben voilà, à mon budget, plus 100, moins 100, égale 200. certain que si c'est comme ça, les conseillers municipaux peuvent se dire ils se moquent de nous. Hein. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, même si c'est le maire qui le prépare, qui est le seul responsable, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est le seul responsable, il ne peut pas fuir sa responsabilité à ce niveau-là, mais c'est vraiment un travail qui se fait en équipe, pour éviter des problématiques. Mais après, le conseil municipal, lors du vote du budget, le budget peut être...
Amendé,
il n'y a pas de souci. Hein.
Il peut y avoir des aspects qui peuvent faire l'objet d'un vote le jour de la tenue du conseil municipal. Là, vous avez la structure d'une commune assez importante, bien évidemment, avec une équipe municipale, un conseil, un maire, des commissions municipales qui sont spécialisées par nature. Vous avez les écoles, vous avez les sportives, vous avez... puis vous avez la commission principale, entre guillemets, c'est celle des finances, qui, une fois qu'on a... pris en charge l'ensemble des demandes de toutes les autres commissions, dit mais là il nous faut augmenter les impôts de 55%, donc il va falloir maintenant qu'on trie un petit peu dans les demandes de tout le monde. Mais comme disait Paul, ça se fait en amont en général. On est bien clair, dans des communes, dans des petites collectivités où vous travaillez presque, vous travaillez tous ensemble, le problème, le vote du budget, une fois qu'il est passé en commission, qu'il a été approuvé par tout le monde, le vote en séance du Conseil ne pose pas de problème particulier. On est bien d'accord, je pense que, à mon avis, c'est à peu près le cas à peu près partout. Je pense que si divergence il y a au sein de petites collectivités, elles ont été réglées avant. S'il y avait le choix entre l'école ou la maison de retraite à construire, je pense qu'on a tranché le problème en disant on va faire une école ou on fait une maison de retraite. Le problème, après le débat dans le Conseil, n'a plus grand intérêt. Donc vous voyez qu'il y a un personnage aussi un petit peu bizarre, là, le trésorier, qui peut intervenir, qui est le conseiller, entre guillemets, du maire et de, alors on a précisé, de la majorité aussi de la municipalité. Je veux dire par là qu'un élu d'opposition ne peut pas venir voir le trésorier en lui disant « qu'est-ce que vous pensez du budget ?» Voilà. Donc nous avons une obligation de neutralité, etc. Nous avons une obligation de conseil, mais notre obligation de conseil, elle est, entre guillemets, au profit du maire et de sa municipalité. Et c'est au maire ou à sa municipalité qu'on dit « c'est bien, c'est pas bien, vous faites des bêtises, vous n'en faites pas, voilà, etc. » Mais après, une fois que la relation avec le maire est terminée, le comptable, lui... n'a pas d'opinion à avoir sur le budget. Mais surtout ce qui est important, il y a cet aspect-là des choses, mais surtout ce qui est important, si vous avez besoin d'informations, d'études, d'analyses avant d'élaborer votre budget, il est bien évident que tous nos collègues sont là. Hein. On est, je ne sais plus combien, une vingtaine à peu près dans le département. Je pense que si vous avez des difficultés, vous allez les voir préalablement au budget. Pour la présentation du budget, sur ce plan-là, je dis toujours à peu près la même chose. La maquette, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la maquette officielle de présentation du budget. Le moins que l'on puisse dire, et pour être gentil, c'est qu'elle n'est pas d'une lecture facile. On est bien d'accord ? Donc, quand vous présentez votre budget, si vous voulez avoir une présentation claire...
Il n'y a pas d'image, déjà.
Il n'y a pas d'image.
Ah, j'aurais des images. Voilà.
Si vous ne voulez une présentation... Je pense qu'un un fichier, je ne fais pas de publicité pour Excel, mais... un fichier Excel simple qui permet à chacun de vos conseillers municipaux de bien prendre connaissance de la manière dont se fait le budget, c'est beaucoup plus simple que si vous balancez la maquette. Hein. Même quand on me la donne, moi, la maquette, j'ai un peu des fois du mal à comprendre. Hein. Donc, essayez de faire un effort de pédagogie lorsque vous présentez votre budget. Ça facilitera grandement les choses et ça évitera des questions un peu à côté de la plaque, quoi, qui peuvent... semblez vous mettre en difficulté alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi.
Oui, il faut vraiment solliciter votre comptable. Hein. Bon, il y a des mairies qui ont des staffs, etc., qui peuvent tout faire, etc. Par contre, si vous ne vous sentez pas à l'aise, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, hein, dans ces matières-là, n'hésitez pas à solliciter votre comptable. Hein. Pas le comptable voisin, le vôtre, hein, uniquement le vôtre. Hein, puisque bon, on a un droit, nous aussi, hein, de réserver à ce niveau-là. Et ce que disait Michel est important, on ne donne pas d'informations, puisque là, on n'est pas, hein, on n'est pas dans un... Les informations, on pourra les donner par la suite, parce que le budget est voté, est publié, etc., c'est du domaine public. Donc là, des informations, on peut les donner. Mais avant, on ne donnera jamais d'informations avant sur l'élaboration du budget. Puisque par définition, si les équipes viennent nous rencontrer, hein, moi ça m'arrive à la trésorerie de Saint-Nicolas, elles viennent nous rencontrer, on travaille ensemble. Hein, mais c'est vraiment un soutien que l'on donne au maire et à son équipe pour l'élaboration de son budget. Et ça reste là. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me demander, me pose des questions sur le budget à venir, ben, moi je ne suis au courant de rien. Parce que par définition, je suis là en tant que fonctionnaire qui travaille pour une collectivité, parce que c'est mon job de travailler pour cette collectivité-là. Je ne travaille pas avec monsieur le maire, je travaille avec la collectivité qui est représentée par un maire.
Alors, on l'a déjà dit, vous l'avez déjà senti, n'oubliez pas une chose, le budget c'est un acte de prévision. Donc notamment quand vous arriverez, vous allez arriver à la fin de cette année, l'un des intérêts de la clôture, à la clôture de l'exercice, ce sera de vérifier un peu la pertinence de ce que vous avez prévu au budget avec ce que vous avez réalisé. Et de s'interroger sur le pourquoi et le comment d'évolution qui peuvent être très favorables, c'est ce qu'on vous souhaite, ou très défavorables. Donc s'interroger. Mais n'oubliez pas que le budget, c'est un acte de prévision. Alors en matière de recettes, il est évaluatif. Bon, à part les dotations et les impôts, vous toucherez au franc près ce que vous avez voté. Le reste de vos dépenses, de vos recettes, par exemple, quand vous faites une évaluation de ce que vont vous rapporter les cantines, vous faites une évaluation. Si vous prévoyez 100 000 et que vous encaissez 102 000, le comptable ne va pas refuser les 2 000 euros. On est bien d'accord, hein ? Donc on est dans l'évaluation. Mais vous avez tout intérêt à ce que cette évaluation soit le plus proche possible de la réalité. Parce qu'en face, vous avez des dépenses que vous financez et que vous allez dépenser. Donc n'oubliez pas ça. En revanche, en matière de dépenses, c'est limitatif. Donc on verra après les chapitres. Ça veut dire que monsieur le maire, vous allez l'autoriser en tant que conseil à dépenser 100 euros au chapitre 011. 100 euros, pas 101. Le jour où vous présentez une facture, ou les services présentent une facture qui porte l'utilisation des crédits à 101 euros, eh bien, Paul et moi, on dit non. Retournez devant votre conseil, demandez-lui 1 euro de complément de crédit pour pouvoir payer ces 101 euros. On rejoint ce qu'on vous disait, le rôle budgétaire essentiel, c'est le conseil municipal. On vous renverra donc devant le conseil municipal pour obtenir un complément de crédit au chapitre qui sera nécessaire, qui sera en dépassement de crédit. Et vous aurez à expliquer à votre conseil le pourquoi. Alors c'est pas dramatique, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais voilà, vous serez obligé de retourner devant votre conseil.
C'est pourquoi il faut regarder l'évolution, hein, de votre consommation budgétaire. Ça, vous pouvez le voir via le document dont je vous ai parlé. Vous pouvez demander, hein, pour ceux qui ont accès à Helios, par exemple, ils peuvent voir. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Helios, c'est l'outil comptable tenu au niveau de l'État pour la gestion de l'ensemble des trésoreries, établissements publics, etc. etc. Donc il faut que vous vérifiez au fur et à mesure, hein, l'évolution de votre consommation budgétaire pour éviter en effet d'arriver au 15 décembre avec un dépassement de crédit.
On n'a pas besoin de passer devant le conseil municipal lorsqu'il y a plus de recettes que prévu.
Oui. Ah non,
même un peu moins si.
Ah non. Les recettes sont évaluatives, c'est-à-dire vous dites je prévois 100 euros de recettes. Vous en faites 90, vous en faites 90. Vous en faites 110, vous en faites 110. De toute façon, budgétairement parlant, on comptabilisera les 10. Il n'y aura pas, si vous voulez, de blocage de la part du comptable. Le seul blocage que pourrait faire le comptable, c'est si la recette n'est pas bonne. Hein, s'il y a une erreur dans le calcul, etc. Mais comptablement parlant, les crédits recettes sont évaluatifs, par définition. Par contre, les crédits dépenses sont limitatifs. Et limitatifs, ils sont vraiment. Et vous ne pouvez même pas réquisitionner un comptable si vous n'avez pas de crédit budgétaire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bloquant. Donc, c'est pour ça, dans l'exécution budgétaire de temps en temps, voyez avec votre comptable ou avec vos secrétaires de mairie en jouant avec Elios, voyez avec votre comptable où en est l'évolution de votre consommation budgétaire en fonction du niveau du budget, on verra après. Parce que ça vous permettra d'éviter, parce qu'on le voit, malheureusement on le voit, hein, d'éviter qu'en fin d'année, on se retrouve avec un dépassement budgétaire qui ne peut être résolu que par la réunion du conseil municipal. Alors qu'on est le 15 décembre, hein, il faut le réunir le 31 décembre. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Et cette situation-là peut s'en sortir si on a fait une démarche préalable. Donc là aussi, n'hésitez pas à voir avec vos trésoriers qui vous donneront tous ces éléments-là.
Je pense également que vos logiciels doivent vous permettre de savoir, par exemple, si en matière de personnel, au 1er novembre, vous avez bien dépensé 10 douzièmes de votre dotation. Si vous en êtes à 11,5 douzièmes, il faut peut-être commencer à s'interroger en disant est-ce qu'on ne se serait pas planté quelque part. Voilà. Hein. Donc, et en matière de recettes, si vous encaissez plus, c'est merveilleux. Si vous encaissez moins, il faudra, si l'écart est important, vous interroger pourquoi. Parce que l'année prochaine, il ne faudra pas recommencer le même mécanisme. Selon ce qu'on vous a dit au départ, il vaut mieux que les recettes soient un petit peu supérieures. On est bien d'accord ? Par rapport à ce que vous aviez prévu. Les dotations, elles sont votées par chapitre, par article ou par opération, on va y revenir. On reviendra, c'est un problème qui est essentiel toujours, compte tenu des conditions dans lesquelles le budget a été voté et approuvé par le conseil municipal. Donc selon la manière dont les crédits ont été ouverts, nous assurons, nous, un suivi de ces crédits de manière différente. On en reparlera.
Alors, présentation du budget, donc pour les communes de moins de 10 000, hein, générant par nature de dépenses et de recettes, frais de personnel, etc. Seules les communes de 3 500 habitants associent une présentation par nature et par fonction. Par fonction, c'est-à-dire hein, l'administration, l'école, etc. Pour avoir, c'est un peu d'analytique, on va traduire ça comme ça. C'est une comptabilité un petit peu analytique pour savoir exactement ce que coûte. Hein. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, il y a l'histoire des budgets annexes qui vous permet de différencier l'eau, l'assainissement, hein, voire les lotissements ou les crèches, etc. Par contre, hein, vous n'allez pas faire un budget annexe pour tout, hein, pour l'administration générale, pour l'école, etc. Donc, tenir par fonction vous permet hein, d'avoir une lisibilité des dépenses et des recettes relatives à cette activité-là. Donc ça, c'est uniquement pour les communes donc, de plus de 3500 habitants.
Une obligation ouais. Pour les communes de plus de 3500. Pour vous, rien ne vous empêche d'avoir un suivi. Hein. Si vous avez 500 à 600... factures dans l'année, il vous est facile de les ventiler par nature. Alors, même les factures d'électricité, s'ils sont par point de distribution, vous voyez bien ce que vous coûte l'école, ce que vous coûte la mairie en électricité. Donc, ça peut être intéressant. Et ça peut parfois expliquer certaines augmentations de dépenses. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous partis en vacances 2 mois, puis vous avez laissé les lumières allumées. Voilà des choses dans ce goût-là. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des augmentations. Donc, ça peut permettre d'avoir une idée du pourquoi ou du comment de certains dérapages en matière de dépenses. Et d'autre part, de savoir là où on peut espérer les années suivantes, lorsqu'on a des difficultés à équilibrer son budget, savoir où on peut réduire un petit peu les dépenses.
Donc voilà, présentation simplifiée du budget. Donc vous avez les dépenses en section de fonctionnement, frais de personnel, fourniture, intérêt de la dette, frais généraux. Et c'est les gros blocs hein, que vous allez retrouver en investissement, alors c'est travaux de bâtiments réseau, acquisition d'immeubles de matériel, remboursement du capital des emprunts. On verra plus tard un petit peu une définition de ce qui est de l'investissement et ce qui est du fonctionnement, hein, puisque très souvent la question est posée, hein, la limite entre les deux est souvent, parfois pose quand même quelques difficultés. Et pour les recettes, bon. Vous voyez que pour le fonctionnement, ben, c'est les impôts, la dotation et les produits des services, hein, n'importe quel, hein, location, le salle des fêtes, etc. etc. hein, tout ce qui est bien propre à la vie de la commune. Et la section d'investissement, vous voyez que la section d'investissement, elle n'a pas grand-chose comme financement. Elle a les subventions reçues et les dotations. Alors là-dedans, on met tout, hein, on met les subventions classiques demandées, c'est le fonds de compensation TVA, etc. etc. Et puis les emprunts. Il n'y a pas... À la différence de fonctionnement, il n'y a pas de produit de service en investissement.
juste un mot. Vous allez voir que lorsqu'on va, on va passer directement à la section de fonctionnement, je pense que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Ça, on va vous faire simplement une petite énumération rapide des chapitres de dépenses de fonctionnement. Le 011, c'est, on va dire, le chapitre fourre-tout de l'ensemble du fonctionnement de la collectivité locale. C'est pas péjoratif quand je dis fourre-tout. Ça présente un avantage pour vous et pour nous. Nous suivons les dotations budgétaires au niveau du chapitre 011. Entre guillemets, on se fout de savoir que l'eau que vous avez estimée à 10 000 euros, vous en avez pensé 12 000. Que le gaz que vous avez évalué à 5 000 euros, vous en avez dépensé 6 000. Tant que la dotation au compte 011 suffit à couvrir vos mandatements, nous payons. Je ne vous ferai pas l'ancien combattant, mais dans les temps anciens, on était spécialisé à trois chiffres, le 621. Dès qu'il y avait un franc au 621, il fallait repasser dans le conseil. Donc on avait des fois des délibérations où on avait 25 francs, 35 francs, 42 francs, qu'on virait d'un chapitre à un autre, simplement pour permettre aux percepteurs de payer. Donc il y a eu un type intelligent quand même à Paris qui s'est dit « on va tout fourrer dedans ». De toute façon, on se moque de savoir si on doit payer du gaz, on doit payer du gaz. Il est extrêmement difficile à une commune d'évaluer le gaz, d'évaluer son électricité à 500 euros près. Donc, on a créé le chapitre 11 de fonctionnement qui regroupe à peu près l'ensemble des éléments de fonctionnement courant de votre activité. Vous voyez, eau, gaz, électricité, assurance, contrat d'entretien, fourniture de bureau, tout ça, c'est du 011. Tant que le chiffre, tant que la dotation au 011 n'est pas atteint, nous payons. Dès que ça dépasse, c'est à partir de ce moment-là que vous allez devant le conseil. 11, 012, frais de personnel. Bon, je ne vous fais pas de dessin, c'est l'ensemble des dépenses qui sont afférentes aux frais de personnel. Vous savez qu'il y a une notion de dépense obligatoire. Vous savez que les communes ont l'obligation d'inscrire au budget certaines de leurs dépenses. Il va de soi que les frais de personnel constituent la dépense obligatoire par excellence. Encore une fois, vous ne pouvez pas demain présenter un budget avec un 0,12 à 0. D'abord, votre secrétaire de mairie va avoir un coup de sang quand elle va le préparer. Ça, c'est évident, elle va se dire, avec quoi il va me payer. Donc, c'est la dépense obligatoire. Il y en a quelques-unes. Il y a les salaires. Vous avez, par exemple, le remboursement du capital et des intérêts de vos emprunts. Ce sont des dépenses obligatoires.
Donc, c'est un poste extrêmement sensible, hein, frais de personnel, qu'il faut qu'il soit évolué au plus juste et au mieux pour éviter de se retrouver en décembre avec des payes qu'on ne peut pas mettre en place. Le problème, il est là. Hein, c'est que si moi, des payes de décembre, on me demande de payer 100 et qu'il me reste 90 sur le compte, les payes ne sont pas payées. Donc, il faudra que je demande à l'élu, au maire, qui me donne un ordre de priorité entre ses salariés. À qui vais-je donner des sous à Noël? Donc, vous voyez que c'est pour ça, hein, c'est vraiment un chapitre très compliqué. Il est très compliqué pour d'autres choses, mais il est très compliqué là-dessus parce qu'il joue quand même sur quelque chose qui est quand même important, qui est le salaire des fonctionnaires municipaux.
Le 014, les atténuations de produits, c'est le chapitre dans lequel on met, je vous ai parlé tout à l'heure, des reversements, par exemple, que vous pouvez avoir au titre de certaines impositions, etc. On les met au 014 avec des comptes d'imputation à l'intérieur du 014. Bon, le seul problème, c'est que tous ces reversements, bien souvent, il faut avoir ouvert des crédits. Et en ce moment, il y a un reversement qui est le fonds, le FPIC.
Le FPIC.
Le FPIC. Si vous en avez peut-être entendu parler, on a dû vous dire, et vous l'avez mal évalué ou vous ne l'avez pas évalué du tout. On ne va pas vous le reprocher, moi j'ai découvert que le FPIC existait. Là. Quand on est venu me dire, bah, il n'y en a aucun, il y en a beaucoup qui n'ont pas de crédit. Donc il a fallu ouvrir, il faut par délibération, vous ouvriez les crédits au 014 73, je vous fais grâce du reste. Voilà, pour pouvoir dépenser, pour pouvoir reverser à l'État les sommes que certains d'entre vous sont chargés de reverser, c'est-à-dire les communes et les EPCI qui sont un peu riches.
C'est des redistributions qui sont, voilà, qui sont faites auprès des EPCI et les EPCI reversent. Le problème, c'est qu'avec le FPIC, vous avez une partie qui vous est versée, et puis vous avez une partie qui vous est reprise. Et tout à l'heure, on vous a dit qu'il ne peut pas y avoir
de compensation
entre la recette et la dépense. Donc on va vous dire, je vous verse 1000, Là, à la limite, vous ne délibérez pas, puisqu'on vous a dit que c'est évaluatif tant que vous les prenez. Mais on vous dit, mais il faut que vous reversiez 10. Donc vous, vous me dites, mais donc vous me versez 990. Non, je vous verse 1000 et vous devez mandater pour 10. Donc si vous n'avez pas prévu les 10 mandatements, ben, on ne pourra pas faire. Et ça, il faut que ce soit fait avant le 31 décembre de l'année, parce que toutes ces atténuations de produits, que ce soit le FNGIR, etc., tous ces trucs-là, sont pour l'État aussi un moyen de voir exactement ce qui a été versé au titre de la fiscalité aux collectivités locales ou au titre des dotations de groupements de communes et voir ce qui a été repris. Si on fait la compensation, on ne voit plus rien. C'est-à-dire que là, c'est vraiment différencié sur des comptes spécifiques. Et c'est vrai que ça pose un problème parce que c'est un élément que souvent on apprend que vers juin. Hein, c'est vers le mois de juin que les choses arrivent et c'est pas la même chose tous les ans. Hein, donc c'est vrai que cette année c'est tombé sur la communauté de communes Saint-Vermont. Donc on a reversé des fonds, mais on a récupéré aussi. Donc il faut faire les deux opérations. Et les collectivités n'avaient pas automatiquement pris des délibérés. Enfin, sur le budget, n'avaient pas prévu ni la recette. Ça c'est pas grave. Mais n'avaient pas prévu la dépense. Donc là c'est un peu plus grave parce qu'il faut une délibération. Il faut une DR.
Pour les établissements, alors on dit établissements fiscaux, hein, ça regroupe l'EPCI et les communes, pour celles qui sont contributrices, la part va un petit peu augmenter tout le temps. Hein, je vous le signale, hein, en vertu de la solidarité, et ce fonds étant reversé aux établissements qui ne sont pas riches. Alors je vous ferai cadeau de regarder les modes de calcul, je vous laisserai le soin de les regarder, hein, si vous avez des soirées à perdre et des neurones à foutre en l'air, c'est le moment où je... parce que c'est quand même pas simple. Mais voilà, hein, donc les établissements riches, entre guillemets, hein, c'est une manière de fixer les esprits, vont avoir encore une augmentation sensible de ce pic.
Alors, 65, c'est autre chose, gestion courante. Il y a des indemnités donc des élus qui sont sur ce chapitre-là. Et il y a des subventions, par exemple, hein, qui sont sur ce chapitre-là. Le 66, c'est les frais financiers. Donc ça, c'est une dépense obligatoire. Hein, puisque vous avez des emprunts. Donc automatiquement, si vous avez des emprunts en cours, eh ben, vous aurez du capital d'emprunt et des intérêts à rembourser sur l'année en cours. Donc tout est marqué là. Et après, vous avez alors là des comptes charges exceptionnelles.
Juste un petit mot sur le 65, il y a quand même un élément qui est important, c'est les contributions que vous allez devoir apporter aux syndicats auxquels vous appartenez. Je pense principalement aux syndicats scolaires. Attention donc à une évaluation et à bien s'entendre au sein du syndicat scolaire pour fixer les contributions. Hein. Les syndicats scolaires ne roulent pas sur l'or, donc chaque année... que je vois, il y a des augmentations régulières, des contributions. Donc pour peu que vous ayez un peu plus d'enfants, ben non seulement vous prenez à votre charge l'augmentation de la contribution individuelle, mais vous avez 2-3 contributions supplémentaires parce que vous avez des enfants supplémentaires. En revanche, quand ils quittent l'école, ben vous avez des quelques gains, entre guillemets, de productivité, on va dire. Donc c'est important. Aussi, ben les admissions non valeurs. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Si on a 5 minutes, on en reparlera. Je crois que c'est un élément important. Simplement une petite remarque. Bon, j'ai eu affaire hier soir dans une intercommunalité pour 126 euros. Hein, on m'a chatouillé pour 126 euros. Je crois qu'il faut dire d'une manière générale, il n'y a pas de microclimat en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, économique favorable. Hein. Donc on a des gens dans des difficultés, vous avez tous plus ou moins des gens dans des difficultés. On est bien clair.
Alors, 68, les amortissements. Donc uniquement pour les communes de plus de 3005 où il y a obligation d'amortir. Pour les communes de moins de 3005, il n'y a pas d'obligation d'amortissement, à l'exception de certains éléments, comme les subventions d'investissement que vous pouvez verser, comme les logiciels, je crois, qui sont amortissables, les frais d'études qui ne sont pas suffisamment faits, qui sont amortissables, quelle que soit la taille de la collectivité.
au nombre des subventions que vous pouvez verser, il y a beaucoup de subventions versées, notamment pour le ravalement de façade. Alors, dans les grosses collectivités, il y en a pas mal, mais je sais, bon, j'ai appris aussi que dans certaines petites collectivités, il y avait des efforts faits par les communes pour aider leurs administrés à faire du ravalement de façade et à continuer à embellir la rue principale. Donc, ces subventions qui sont des subventions que vous imputez en investissement sont amortissables.
Et donc, il y a bien sûr tout ce qui est eau et assainissement, où là, l'amortissement, quelle que soit la taille de la commune, l'amortissement est de droit hein, sur les réseaux, etc. etc., etc. Dépenses imprévues, donc là, c'est vous faites une prévision de dépenses dites imprévues, c'est-à-dire de choses. Hein. Donc, ça ne doit pas dépasser 7,5% des dépenses.
7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. Voilà. Pas plus.
Voilà.
Alors, c'est un petit démantèlement de ce qu'on vous a dit. Dès que ça dépasse d'un centime, vous devez aller devant le maire. Oui, si vous n'avez pas de dépenses imprévues. Si vous avez des dépenses imprévues, c'est-à-dire des crédits votés, on ne fait aucune dépense au chapitre 022. On ne fait pas de mandat au chapitre 022, ça n'existe pas. En revanche, monsieur le maire, lorsqu'il a un dépassement de crédit, au 011, juin, à l'appui de la facture, un virement, une décision par laquelle il décide de prendre 1000 euros pour les remettre au 011. Donc ça, c'est une autorisation qui est accordée au maire, que le conseil municipal lui a accordée en votant les dépenses imprévues. Hein. On est bien clair. Hein. Si le conseil municipal dit non, moi je ne veux pas en entendre parler, on ne vote pas de dépenses imprévues, on est bien OK. Hein. C'est parce que le conseil municipal, encore une fois, a décidé de mettre obligation pour le maire ou pour le président de PCI de rapporter lors du prochain conseil, de faire entériner et d'informer le conseil municipal des crédits qu'il a ponctionnés sur le 022 et indiquer à quel compte il en a eu besoin.
Ça, c'est une information.
Oui, c'est une information, absolument. C'est une information.
Le conseil municipal ne délibère pas sur la décision de virement de crédit. Le maire est tenu d'informer à la plus proche réunion du conseil qu'il a effectué un virement de crédit de dépenses d'achat. Mais le conseil municipal ne prend pas de délibération.
La décision du maire, pour nous, est une décision modificative. Nous la traitons comme telle.
Il faut qu'elle soit exécutoire.
Hein? Donc, elle est exécutoire, elle doit être transmise en préfecture, normalement, nous est adressée avec la mention de l'exécutoire, et nous la traitons, nous faisons une opération de transfert du 022 au 011 en fonction des besoins. On est bien d'accord. On traite ça comme une décision modificative. C'est les seuls cas où la décision modificative, elle ne résulte pas véritablement d'une décision du conseil municipal. Mais la décision, elle a été prise lors du vote du budget. On est bien d'accord.
Je voulais juste revenir sur les amortissements. Donc vous dites qu'il y a certains amortissements, quelle que soit la taille de la commune, je pense aux réseaux par exemple.
Et que la contrepartie d'amortissement est une recette en investissement. Je suppose que cette recette, elle est fléchée. Je suppose qu'on ne peut pas prendre, par exemple, un amortissement qu'on a fait sur des réseaux d'eau pour après la mettre dans un pot commun et après, elles sont fléchées par rapport au type d'amortissement.
Dans quel pot commun vous voulez la mettre?
Dans les lignes d'investissement, je suppose qu'il y a
C'est un moyen de financement de la section d'investissement. Point.
Mais ce n'est pas fléché.
Non, c'est un moyen, ça vous sert à tout un tas de choses. Imaginons que vous n'ayez aucun investissement à faire, ça peut arriver, hypothèse d'école. Vous avez des amortissements, ils vous servent à rembourser, à financer le remboursement du capital de votre dette. Quand vous allez bâtir votre budget, vous allez inscrire 10 000 de remboursement du capital de la dette, puis vous allez inscrire au 28 amortissements, 15 000 euros par exemple. Voilà, c'est tout, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs des ressources pour assurer, équilibrer votre section d'investissement. Donc ils ne sont pas fléchés. C'est une ressource d'investissement non affectée comme n'importe laquelle des ressources.
Il n'y a pas d'affectation. Il n'y a aucune ressource affectée à part deux ou trois trucs, mais il n'y a pas de ressource affectée dans un budget communal. Toute recette est là pour financer toute dépense. Là, l'amortissement est relié à un bien. OK, hein? Donc là, on va pas amortir à 10 notre bien. Donc c'est bien lié à un bien, mais ça va aller sur un compte. qui viendra en recette sur la section de fonctionnement. Donc vous pourrez très bien équilibrer votre section d'investissement avec la recette des amortissements. En sachant, faites quand même très attention à ça, c'est que la recette d'amortissement n'est pas une recette qui amène de la liquidité. Attention, c'est une recette qui peut servir d'équilibre et qui ne vous amène aucun sou dans la caisse. Je suis trivial, mais elle ne vous amène rien dans la caisse. Donc c'est juste une recette d'équilibre. C'est l'autofinancement, mais qui ne vous amène pas d'argent sonnant et trébuchant. Donc il faut que vous ayez quand même derrière de la liquidité. Et ça va vous permettre d'équilibrer. De toute façon, c'est fait pour ça. Ça va vous permettre d'équilibrer. N'oubliez jamais que le pendant de la recette au 28, c'est quand même la dépense au 68. C'est une charge.
C'est de l'autofinancement purement et simplement. Dans les services industriels et commerciaux, une grande partie de l'autofinancement est assurée par le financement des amortissements, par les amortissements. Et puis, en deuxième temps, par une affectation de résultats. On verra après comment.
Bernard Fabin, je suis maire de Chaulois-Bénilloux, à côté de Toul. Donc ce n'est pas mon premier budget. Mais il y a une question que je voudrais poser à messieurs les percepteurs. Ça fait déjà 4 ans que nous avons une cantine. Et on a toujours payé la cantine aux 60 623.
Alors là.
Voilà, vous pouvez dire alors là. Et puis comme ça, d'un seul coup, au mois de juillet, on nous dit, ben non, c'est pas là. C'est aux 60-42.
Payer la cantine, vous voulez dire quoi, payer la cantine?
On avance l'argent pour les enfants, la commune met une participation, et puis après on mange les parents. Alors, au 60-42, bien entendu, j'avais prévu zéro. Donc maintenant, je suis à moins 3318,90. Et puis, au 60-623, il me reste 8000 euros.
Question à 10 francs, est-ce qu'on est au 0,11? Parce que comme
oui,
ça,
il n'y ben oui.
Ben, a pas de problème.
Non, mais pourquoi la perception nous fait changer en cours de route?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Alors, on a demandé.
On peut s'en aller tout de suite. On va s'en aller tout de suite, si vous voulez. Non, mais.
Attends, on a demandé à la Direction Générale des Finances.
Oui.
Personne ne nous a dit pourquoi.
Ah, mais ça on ne va pas vous dire pourquoi. Hein, moi, je ne peux pas vous dire. Non, mais moi, je ne vais pas. Ah, vous avez peut-être changé de percepteur.
Oui.
À tout. Ah, vous avez changé de percepteur. Bon. Voilà.
Ça, c'est... Ah, ben voilà, l'André est parti, alors c'est sûr. Hein.
Non, voilà.
Vous avez changé... Ah, si l'André est parti, alors.
Vous avez changé de percepteur. Le percepteur qui arrive considère que la cantine, où vous le mettiez en alimentation, parce que je viens de vérifier, je ne connais pas par cœur.
C'est ça. Ouais. Hein.
Donc vous mettiez. Alors qu'en fait, c'est pas.
C'est une achetez... participation.
C'est pas... Vous n'achetez pas. Service, alors. Oui, oui. Vous n'achetez pas l'alimentation. Absolument.
Oui, mais pendant 4 ans, on a quand même payé.
C'est pas grave. Sur le fond, quel est le problème? Sur le fond,
soyez pas plus royaliste que
vous. N'aimez pas avoir une ligne en
négative. Vous n'aimez pas
avoir une ligne en négative.
Ah bon?
Non, mais bon.
Mais rien ne vous empêche. Rien ne vous empêche. Le prochain conseil municipal d'équilibrer les choses.
Non, mais
hein. L'année prochaine, bon.
Voilà. Non mais je pense qu'effectivement, comme dit Paul, c'est de la nourriture, et là, dans le cas présent, c'est une contribution, et c'est pas de la nourriture. Est-ce vraiment drame? Disons que l'André était un peu tolérant.
Quand on passe certaines communes qui n'étaient pas Cosolus ou Cosolus, il nous arrive aussi d'être obligés de remettre en place un certain nombre de choses. Donc ça peut arriver, et c'est pas forcément parce que le percepteur ou le trésorier a décidé de changer de... Il peut y avoir d'autres raisons, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, du moment qu'on reste dans le bon chapitre. Il y a parfois certaines interprétations qui sont différentes à certains moments par certaines personnes. Un autre jour, on parlera de l'architecte des bâtiments de France, et là, il y a un autre grand sujet aussi sur les interprétations. Donc,
Non, mais il faut vous dire, l'imputation budgétaire, à l'intérieur de la section de fonctionnement, à l'intérieur des chapitres tels qu'on vous les a montrer 11, 12, 13, je ne sais plus, etc., etc. À l'intérieur de ces éléments-là, on pourra être amené, lorsque c'est évidentissime, à faire des mouvements. Là, il est vrai que moi, en effet, je ne l'aurais pas mis, vous n'achetez pas des boîtes de conserve, vous n'achetez pas à manger. Vous achetez une prestation, puisque vous achetez des repas qui sont fournis à quelqu'un. Donc là, vous achetez la prestation. Donc, la nouvelle comptable, puisque c'est une dame,
ouais, en plus,
la nouvelle comptable a visé juste. L'ancien comptable, ça n'a pas d'importance. Je ne pense pas que la Chambre régionale des comptes
le mettra en cause pour ça. Elle lui fera une observation.
Donc il faut, après, mais il est normal à un moment donné. Hein, parce que, bon, un comptable, quand il arrive, ben, il voit des choses et ben, il va les signaler. Moi, quand je suis arrivé à Saint-Nicolas, hein, j'ai dû déplaire à beaucoup de gens aussi. Hein, puisque mes collègues peuvent trouver ça et moi, je leur ai dit, ben non, c'est comme ça. Il faut argumenter. Hein, là, moi, je pense que son argument, il est là, c'est une prestation de service et pas de la denrée alimentaire. Voilà pourquoi.
Ah, c'est pas la supériorité de la femme par rapport à
l'homme. Pas du tout. On va descendre sur terre, madame Coupon. Regardez où je trouve la supériorité ici.
Non, mais comment vous a dit ? Vous êtes dans le cadre d'un chapitre budgétaire. Le chapitre, vous ne dépassez pas, puisque c'est du 60, donc tout ça c'est du 0. Vous ne dépassez pas le chapitre, donc il n'y a pas de dérogation, si vous voulez, à la règle budgétaire. Bon, maintenant, si vous voulez vraiment ne pas avoir de ligne à zéro, en effet, vous pouvez passer du 606, je ne sais pas quoi, au 604. Mais bon, l'intérêt, à mon avis, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Hein, puisque de toute façon, votre budget sera exécuté comme il faut.
Mais non, vous n'êtes pas obligé.
Non.
Alors, il y a un dernier point, là, ça, c'est important. Oui, allez, je vous en prie, pardon, madame.
Soyez pas trop exigeant sur la nomenclature comptable. Non, parce que je l'ai là, je ne connais pas.
Au niveau de ce qu'on doit reverser avec le SPIC, juste une petite question.
Oui.
Est-ce que c'est basé sur un excédent budgétaire ou est-ce que c'est basé sur les richesses que la commune reçoit?
J'ai regardé. Je l'ai là, je vous le donnerai pour ce soir. Non, mais j'ai regardé, on parle, vous appartenez à une communauté de communes ?
Oui.
TPU ?
Oui.
Bon, voilà. Bon, c'est comme chez moi. Donc, le calcul se fait richesse, alors, soyons prudents, richesse fiscale de l'EPCI, richesse fiscale de toutes les communes membres, et en fonction de ça, je vous lirai la formule, mais c'est pas simple, donc vous êtes considéré comme supérieur à... une norme qui a été fixée par la loi, et donc à partir de ce moment-là, vous reversez.
Le logarithme, ça dégrade.
Jamais je m'avancerai, c'est comme la dotation globale de fonctionnement. Il doit y avoir 4 personnes en France qui doivent savoir comment ça se calcule. Je plaisante, mais à peine.
Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut mettre de côté sur un budget.
Ah, pas du tout. Non, c'est lié au potentiel financier de la commune. Donc il faut savoir ce que ça veut dire potentiel financier. Et je crois qu'il y a un taux de 0,9, d'après ce que j'ai lu. Si vous êtes au-dessus, vous reversez, ou si vous êtes en dessous, vous reversez. Voilà. L'objectif simple, c'est de dire, on prend un peu à ceux qui, suite à la réforme de la taxe professionnelle, ont gagné un peu d'argent, et on redonne à ceux qui, compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, ont perdu. Voilà. C'est les grands principes. Après, les grands principes, des modalités de calcul, je vous laisse le soin de les trouver.
C'est une bonne question parce qu'il y en a d'autres structures qui, parce qu'elles sont bien gérées, on leur prend leur argent. Donc, et là, c'est pas ça.
Je pense pas. Non, c'est pas ça. Donc, virement à la section d'investissement, on va retrouver c'est votre auto-financement prévisionnel. C'est le pognon que vous avez décidé, dans le cadre du vote de votre budget 2015, d'affecter au financement de l'investissement. C'est bien évidemment, je répète, une prévision. Mais en tout cas, le chiffre que vous allez porter là, c'est ce que vous avez l'intention, c'est que si votre budget se réalise au franc près, hypothèse complètement d'école, on est bien d'accord, se réalise au franc près, eh bien, vous aurez en fonctionnement un excédent du montant du virement et vous aurez en investissement un déficit du montant du virement. On est bien d'accord ? Hypothèse d'école, vous ne retrouverez pas ce chiffre dans la réalité, puisque bien évidemment, vous n'exécutez pas ni en fonctionnement, ni en investissement, le budget au franc prix. Mais c'est votre prévision d'auto-financement.
Tu peux passer aux recettes.
Alors, au niveau des recettes, alors là, on ne parle plus en 0,11, 0,12, 0,14, etc. On parle d'un chapitre classique, ceux qui connaissent la compta privée, hein, 70, 71, 72. Donc 70, c'est tous les produits, des services et des ventes. En gros, hein, du aménagé, concession cimetière, coupe de bois. Hein, donc fondement du recouvrement et une délibération.
En général, la majeure.
71, production stockée. Alors, à part des très grosses collectivités, enfin, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont des productions dites stockées, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas.
Ça veut dire qu'il faut avoir une classe de...
Classe 3.
Une classe 3, suivie des stocks en classe 3, parce que les stocks peuvent représenter des sommes. Je ne sais pas si une commune, demain, a des vignes, elle a peut-être un stock de Bourgogne ou de Bordeaux, hein, je ne sais pas. C'est dans ces pays-là que ça peut être sauvé. Hein, voilà. Non, mais c'est... possible. Il y a des lycées agricoles, dans ces régions-là qui ont une valeur de stock. Ça commence à devenir quelque chose de solide, hein, parce que vous avez des bouteilles du côté de Beaune qui datent de 15 ans. Hein. Bon, simple remarque en passant.
72, des travaux en régie. Alors, les travaux en régie, c'est simple. C'est les investissements que vous faites vous-même. C'est-à-dire, vous faites de... Oui.
Excusez-moi, quand il y a des lignes à haute tension qui passent sur une commune, ça va en charge en produit 70, en recette 70
vous percevez une redevance?
Oui, la taxe sur les pylônes.
Oui.
Oui. Alors, on regarde dans la nomenclature, je ne suis pas sûr que ce soit du 70. Alors, là, encore une fois... mais ça doit être prévu... 60, je pense que ça doit être 73. Donc, travaux en régie, c'est les travaux d'investissement, je n'en fais pas, hein. Ce sont les travaux d'investissement que vous faites vous-même. Je prends un exemple simple, vous avez un logement communal. L'exemple n'est pas trop bien choisi parce que le logement communal, il n'est pas soumis à... les travaux ne sont pas récupérables au titre de la TVA, je vous rappelle, on en reparlera. Bref, mais je dis l'employé communal, vous dites qu'il a des mains en or, on va l'utiliser, vous achetez les toilettes, la douche, etc. Vous mettez dans votre appartement communal, vous mettez une douche WC. On est dans le domaine de l'investissement. Mais la baignoire, l'ensemble, vous les avez achetés en fonctionnement. Tout est imputé en fonctionnement. Donc, travaux en régie, ça veut dire que vous avez le droit, vous l'avez prévu, de transférer en section d'investissement le montant de vos investissements augmenté des frais de personnel. Alors les frais de personnel ne généreront pas de remboursement de TVA. Mais si le travail effectué, les travaux sont éligibles au FCTVA, sur cette partie-là, vous récupérerez bien évidemment la TVA. Et là, on est bien dans la notion d'accroître le patrimoine de la collectivité. La distinction entre, on y reviendra encore une fois, la distinction entre fonctionnement et investissement, c'est bien l'investissement doit accroître ou augmenter la valeur du patrimoine de la commune. Simplement, un coup de peinture dans les classes, c'est du fonctionnement. Point. On est bien d'accord.
C'est 73-43. Ah, c'est marqué. Ben voilà, 73, impôts et taxes. Donc, tous vos impôts, toutes les taxes, c'est du 73. Alors, c'est un...
Bien sûr, OM, ce n'est pas Olympique de Marseille, hein, c'est ordure ménagère. Oui. Hein, c'est au cas où...
Donc, c'est tout ce que vous percevez. Hein. Bon, là-dessus, il y a quand même un élément important, c'est ce qu'on appelle les impôts locaux, hein, sur lesquels vous avez la main. Puisque les impôts locaux, vous recevrez en début d'année... vers le mois de mars, vous recevrez ce qu'on appelle l'état 1259, hein, que certains connaissent. Cet état-là reprend votre situation à N-1, c'est-à-dire vos bases et vos taux de N-1. Vous donne vos nouvelles bases N, faites attention, les nouvelles bases N que vous avez sur ce truc-là ne sont pas définitives, puisqu'il y a des réajustements de base en cours d'année, hein, vers le mois de juillet, je crois. Donc, et à partir de là, vous allez, à partir de ce document-là, vous allez voter vos taux, puisque sur les bases, vous n'avez pas, à ce niveau-là, et bien d'accord, vous n'avez aucun moyen d'action sur les bases. Les bases, il y a la commission des impôts, etc., etc., mais sur ce document-là, vous n'avez aucun moyen, vous ne pouvez pas jouer sur les bases, donc vous n'avez que les taux. Et c'est là où vous allez dire, je veux tant. Et vous allez répartir ça en fonction. Soit vous ne bougez rien, donc vous multipliez les nouvelles bases par vos anciens taux. Soit vous bougez un peu ci, un peu mi, etc. Hein, pour essayer de savoir ce que vous voulez, vous, réellement, percevoir. En sachant qu'il y a les logements vacants qui posent problème, puisqu'on peut vous les récupérer l'année d'après, suite aux réclamations qui sont faites par les contribuables. Mais sinon, normalement, en règle générale, vous avez la plupart du temps la somme qui se trouve en bas du papier, c'est-à-dire produit attendu, ce qu'on appelle le produit attendu. Alors, sur les impôts, n'hésitez pas, j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas, n'hésitez pas à demander à votre trésorier, à la limite, de vous faire des simulations. Ce n'est pas des choses astronomiques, puisqu'on a quand même quelques outils qui sont très simples, qui nous permettent de faire des simulations, à voir ce que vous rapporterez le fait d'augmenter d'un point tel impôt, est-ce que ça va vous apporter, est-ce que ça a un impact, etc., etc. Donc ça, c'est ce document-là qui va servir, puisque là, on est en année N, donc de toute façon, vous ne pouvez plus toucher aux abattements que vous aviez prévus, etc., etc., puisque les délibérations fiscales doivent se prendre en N-1 et au plus tard en octobre. Donc là, de toute façon, plus rien n'est fait. Donc c'est à partir de là que vous allez savoir à presque 100% ce que vous allez percevoir au titre de la fiscalité locale, TH, TF, TFNB, non bâti, CFE pour ceux qui ont encore la CFE, pour ceux qui sont dans un EPCI à fiscalité unique, il n'y a plus de CFE, c'est l'EPCI qui s'en occupe, CVAE, le chiffre de la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE sur laquelle vous ne prenez aucune décision, le montant, il y aura un montant de portée là-dessus, ainsi que les IFER, etc., et d'autres taxes, tout là-dessus. Donc ce document-là, c'est vraiment votre base là-dessus, et ces chiffres, bien entendu, il faudra les reprendre tels quels. Dans votre budget, vous ne pouvez pas dire, sur le 1259, j'ai une base de 10, je mets un taux de 100%, donc je veux toucher 10. En TH, vous ne pouvez pas dire, vous pouvez pas mettre 15 sur le budget. Du moment où vous aurez mis 10 sur le 1259, ces 10-là iront automatiquement sur le budget.
Alors juste un petit mot sur les notions de base, vous savez ce que c'est, vous avez tous reçu, ouais, sauf ceux qui sont du côté de Nomni, peut-être s'il y en a, ont pas reçu la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Quand vous regardez votre taxe d'habitation, votre taxe foncière, vous avez le taux communal, vous avez le taux des autres communes, intercommunalités qui interviennent également. Eh bien, vous avez une base. Eh bien, c'est la somme de ces bases qui constitue, d'une manière générale, le montant total des bases de TH, de TF de votre collectivité. Je vous signale autre chose. Je pense que je l'ai lu dans le journal. L'augmentation des bases votées par l'État, pas si ce soit encore, et 0,9%.
C'est exact.
Je suis heureux. Voilà.
C'est le journal d'aujourd'hui.
Voilà, mais méfiance quand même, le budget n'est pas encore...
On est au journal.
Hein ?
Non, rien.
Je travaille, moi, monsieur. Attention, le budget de l'État n'est pas encore voté. Mais la proposition faite par l'État est d'augmenter normalement et naturellement les bases sans que vous ayez quoi que ce soit à faire, de 0,9%. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle que vos bases, elles peuvent augmenter grâce aux 0,9%. Maintenant, elles peuvent augmenter également à raison de l'ensemble des maisons, bâtiments, immeubles qui se construisent sur le territoire de la commune et qui entrent en imposition, comme on dit chez nous. Je vous signale qu'il y a de plus en plus de collectivités qui suppriment l'exonération de 2 ans de taxes foncières qui est de droit. C'est une idée que je vous donne. Si vous cherchez des sous, et si vous ne travaillez pas à Villers-les-Nancy, là où j'habite. Donc voilà. Allez, j'ai fini, c'est trop tard. Hein. Oui. Oui. Alors, le calcul des bases de taxes d'habitation ou taxes foncières, si vous nous posez la question, on se sauve en courant.
Non, mais bon.
Non, parce que les bases ont été évaluées la première fois en 1970. Donc on est sur ces valeurs locatives, sur un logement de référence évalué en 1970. Donc il y a des évolutions qui ont eu lieu. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les années 80, on en parle encore, on parle de réformer le calcul des bases, de TH, de TF.
Ça fait 10 ans.
La première fois qu'on avait voulu le faire, c'était en 1980.
12. Non.
Ouais, si, c'était dans ces eaux-là. Ils ont appuyé sur le bouton, ils ont vu les résultats, ils ont foutu l'ordinateur par la fenêtre. Hein. À Nancy, certes, l'eau du Lièvre ne payait plus 4000 francs de taxes d'habitation, seulement la petite dame qui habitait rue de la Garenne, qui n'avait peut-être pas des ressources extraordinaires, elle voyait sa taxe d'habitation passer à 10 000 francs. Donc, voilà.
Mais c'est vrai que quand on
y a déjà eu beaucoup d'évaluations.
Quand on regarde les courbes de la valeur locative et l'évolution de la valeur locative et de la valeur, l'évolution des bases, elles sont raccord, hein, c'est exactement.
Absolument. Non, mais l'évolution, c'est celle-là.
Mais il y a une forme d'injustice pour des communes normalement gérées, on va dire. On perçoit l'impôt comme. On colle de la valeur locative sur du foncier.
Oui.
C'est pas l'impôt sur le revenu, enfin, je veux dire, c'est sur le revenu locatif. C'est.
Mais il a bien fallu trouver, je pense que le législateur a dit, il a bien fallu trouver un critère pour faire une évaluation.
Et la valeur du foncier, c'était pas un bon critère. La valeur du bien. L'évolution de la valeur du bien. Pour du foncier, je veux dire.
Qu'est-ce que vous appelez l'évolution de la valeur du bien? Le prix auquel vous l'avez acheté?
Le prix de l'immobilier. On peut...
Mais attendez, ce que vous appelez valeur locative, il faut faire attention. Il ne faut pas l'associer automatiquement à une notion de locatif ou de loyer. Parce que si vous prenez par exemple la ville de Paris, vous avez des studios qui se louent à 1000 euros par mois, si demain on met la valeur locative de ce studio qui doit tourner à 3000 euros de valeur locative pour l'imposition, imaginez ce que ça peut être. Donc les valeurs locatives elles répondent à des critères qui sont dans le code général des impôts. C'est-à-dire vous avez des catégories d'habitation. Alors, je crois qu'il y en a 8 hein, de mémoire. Vous avez des catégories d'habitation, et puis en fonction de ça, en fonction des déclarations que vous faites, hein, en fonction des permis de construire, en fonction des tas d'éléments comme ça, on vous intègre dans une catégorie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une révision passive des bases locatives, bon, s'ils le font, c'est bien, mais ils sont obligés, ça veut dire qu'ils multiplient par 100 les impôts des gens de Paris. C'est clair, c'est précis. C'est même pas la peine de chercher. Donc quand vous avez une valeur locative de 3000 et que votre bien, vous pouvez le louer 12000, vous voyez le différentiel hein, que ça peut être. Donc ça deviendra extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est vrai que les résidences, ce qu'on appelait des résidences, le nom du lien était une résidence. Il y avait une valeur locative très très élevée. Mais pourquoi? Parce que quand il a été construit, il avait du confort que rue de la Garenne, peut-être la personne n'avait pas.
Absolument.
Le problème, c'est que la personne rue de la Garenne, elle s'est fait sa salle de bain, mais elle n'a pas déclaré. Et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que vous avez des hangars qui sont devenus des palais, et vous avez des palais qui sont devenus des chaumières. Donc, il faut faire très attention à ces notions-là. Donc, vous avez des commissions, des impôts hein, dans vos collectivités. Vous connaissez votre terrain. Hein, vous connaissez votre terrain, bon, mieux que n'importe qui. Donc, vous pouvez être à même de dire, il y a peut-être en effet une injustice. C'est-à-dire qu'une personne qui a un temps à acheter un hangar, il a le droit d'acheter un hangar, mais qui en a fait automatiquement, qui était en catégorie 8, mettons, donc avec une valeur locative extrêmement basse, il en a fait quelque chose de très bien, tant mieux pour lui, mais il continue à payer en catégorie 8. Donc, voir s'il n'y a pas possibilité. Alors, il y a des choses que vous pouvez voir, mais après, il y a des choses que vous ne voyez pas, parce qu'on ne va pas chez les gens, etc.
L'association de maires organise des formations spécifiques sur le sujet justement du rôle de la commission communale des impôts directs et sur comment modifier vos marges de manœuvre justement en travaillant sur la valeur locative. Et ce n'est pas, je rappelle, de la délation, c'est de l'équité fiscale.
Attention au fusil quand même.
Justement, une question par rapport à ça. Effectivement, je crois que les gens, de plus en plus, ne font pas les déclarations de tout ce qu'ils ont réellement. Et comme vous dites fort, justement, on n'a aucun moyen de vérifier tout ça. Alors, on peut le vérifier que par des on-dit. Alors, moi, ma question était la suivante. Pour pouvoir, effectivement, avoir un résultat efficace, est-ce qu'il est possible, dans le cadre d'une commission communale des impôts, effectivement, quand on a une commission communale, on se base sur les permis, donc là, ça c'est une chose, des choses qui bougent, Mais s'il y a certaines habitations sur lesquelles on a énormément de doutes, est-ce que la commission communale des impôts peut arbitrairement mettre un certain nombre de pièces, mais vraiment d'une façon surévaluée, de façon à ce que la personne réagisse, vienne nous voir en disant « Attendez, 8 pièces, finalement, moi j'en ai que 6, et à ce moment-là, on aura la réalité des choses.
Alors,
et de 2 réellement qu'on avait au début, on peut peut-être à 6. Est-ce qu'on peut faire ça ?»
Les seuls qui sont habilités à interroger les particuliers pour savoir s'il y a eu des évolutions dans leur local d'habitation, c'est la direction des finances publiques. Ce sont nos collègues qui s'occupent du foncier. Une collectivité de chez moi avait lancé un questionnaire à l'ensemble de ses administrés pour savoir s'il y avait eu des évolutions. Il y a 45% des gens à peu près qui ont répondu à peu près honnêtement. Donc on a été voir mon collègue du centre foncier avec la collectivité. Alors il lui a dit déjà, un, sur la base de vos questionnaires, je n'ai rien fait. Ils n'ont aucune valeur juridique. Il y a que moi qui puisse faire, enfin que nous qui puissions faire. Et deuxièmement, il a dit, faites très attention, des évolutions comme une salle de bain supplémentaire, ça ne rapporte pas énormément. Et d'autre part, 40%, c'est insuffisant pour qu'on décide de faire une réévaluation complète. Comme a dit Mme Coulon, si on prend certains, ceux qui sont honnêtes, il va falloir courir après les 60% des autres avant de mettre en œuvre l'évolution.
Non, mais rien ne vous empêche de demander, quand vous avez vos réunions de commission des impôts, normalement, demander à ce qu'il y ait quelqu'un de la direction des finances publiques.
Ils sont en général là.
Hein, alors, le problème, c'est qu'ils sont moins nombreux que vous ne l'êtes. Hein, donc ça, et on est de moins en moins nombreux. On fait partie des efforts de solidarité à l'économie de l'État. Donc, demandez. Hein, et si, par exemple, pour vous, si vous voulez, si vraiment vous tenez à avoir quelqu'un, vous me le dites. Et moi, je contacterai ma direction en leur disant qu'il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un du service publicité foncière, enfin, etc., les nouveaux services qui sont là, qu'il y ait vraiment quelqu'un pour qu'ils viennent assister à cette réunion-là. Ce n'est pas le trésorier, parce qu'on n'est pas compétent. Hein, on n'est pas compétent en fiscalité directe locale à ce niveau-là, et encore moins dans tout ce qui est tout ce qui touche foncier. Hein. Mais par contre, eux le sont, et donc eux peut-être pourront vous dire, hein, par des questionnaires, etc., etc., à faire bouger les choses.
Méfiez-vous à propos des bureaux d'études qui vous démarchent, faites au motif qu'ils vont étudier vos bases, ils vont les revitaliser, ils vont accroître leur rendement. Attention.
Ils prennent les données qu'on leur donne.
Ils prennent les données qu'on leur donne, et donc ils vous font miroiter des... Ben, ça a été le cas de la collectivité concernée, on lui a fait comprendre qu'il y en avait au moins pour 40 000 euros de rendement annuel. Et quand nos collègues ont regardé, on a dit, sur la base de ce qu'on a vu, il y avait à tout casser 8 à 9 000 euros de plus. C'est tout. Avec ce problème de l'inéquité, bien sûr, entre ceux qui avaient déclaré et ceux qui n'avaient pas.
Non, mais si vous avez de gros doutes, c'est vraiment évident. Hein, moi, j'ai commencé, j'étais à Champs-des-Bussières, donc il y a quelques années.
Non.
Hein, si. Et il y avait un gars qui était devenu, c'était la plus belle baraque du village. Il y avait même des luminaires dans l'allée et tout, bon, etc. Donc là, c'était tellement évident que des questionnaires étaient envoyés. Parce que le questionnaire qui est envoyé par la direction des finances publiques, la personne va le remplir en attestant sur l'honneur, ce qu'elle a mis. Donc là, non, mais là, ça se voyait. Oui, parce que là, ça se voyait. Ah, c'est comme quand vous voyez...
C'est pour ça que c'est bien les drones pour aller chercher des piscines.
N'hésitez pas. Ben, ouais, bon, c'est, y a, pourquoi pas. C'est comme les travaux qui sont faits sans permis de construire. Hein, les travaux qui sont faits sans permis de construire. Quand il y a permis de construire, c'est relativement simple. Puisqu'on rajoute de manière mathématique. Et les travaux qui sont faits, parce que vous avez le droit de faire des travaux sans permis de construire. Ouais. Ah, si vous ne dépassez pas tel truc. Hein, vous avez le droit de faire. Et c'est là où... Hein, des gens qui aménagent un peu leur comble sans dépasser le truc du fait du toit, etc., etc. Ils se créent deux petites chambres en haut, etc. C'est un aménagement. Donc là, il faut voir avec nos collègues et demander d'envoyer des questionnaires.
C'est le géomètre du cadastre ?
Non, le géomètre du cadastre, c'est autre chose. Le géomètre au cadastre, lui, il vient. Quand il y a un permis de construire, il vient. Voilà. Quand il y a des permis de construire connus, le géomètre au cadastre, il vient, il fait des mesures. ils remesurent pour requalifier le bien. Et que là c'est plus géomètre, puisque il faut avoir l'info, quoi. Le problème, vous doutez d'eux, hein, dans certaines collectivités, d'après ce que j'ai entendu, c'était quand même, ça pouvait être relativement important.
C'est bien pour ça qu'on fait une session de formation d'une journée là-dessus, et donc si vous voulez bien, on avance, parce que là on est...
Voilà. Bon, voilà le beau document, hein. L'état de notification des impositions. Vous votez votre variation proportionnelle en règle générale. Voyez nos collègues si vous voulez faire des variations différenciées. N'oubliez pas, il y a des liens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. La seule imposition que vous pouvez multiplier par 2, par 4, par 10, c'est la taxe foncière. Autrement, taxe d'habitation et CFE notamment sont liées l'une avec l'autre. Hein ? Donc là, les logiciels dont nous disposons sont capables de vous dire, vous augmentez de temps en temps, oui ça passe, non ça passe pas. Signé, envoyé en même temps que le budget à la préfecture fait la transmission de ces états là chez nous pour le calcul, la liquidation de vos taxes d'habitation et de vos taxes foncières.
Pour revenir au budget qui n'est pas voté, donc il y a problème, les taux, lorsque le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire que le contrôle de légalité a considéré que, ou lorsque le budget n'a pas été voté, en temps et heure, les taux ne sont pas votés. Donc les taux ne sont pas pris en compte par la direction des finances publiques.
C'est le cas notamment des problèmes rencontrés à Seyé-Montcher sur le PCI, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a un problème juridique, peu importe le fond, mais le regroupement, enfin le périmètre de le PCI a été... modifié, donc on n'a pas envoyé les taux, donc les habitants des communes de Nomni, etc., n'ont à ce jour pas reçu ni de taxe d'habitation, ni de taxe foncière. Ce sera pour le début du mois de février, théoriquement. 74, dotation globale de fonctionnement, on va passer vite avant que vous lynchiez quelqu'un. Donc là, à partir du mois de mars, hein, sur le signe dotation-déchets-intérieur.gouv.fr, vous voyez quel est le montant des dotations qui vous est attribué. C'est le montant que vous reportez purement et simplement à votre budget.
Alors aujourd'hui, il y a des communes qui me demandent d'essayer de calculer. C'est impossible. Parce que je peux calculer celle de l'an dernier. Ça pose pas de difficulté. Et celle de cette année, je ne peux pas, puisque je n'ai pas les paramètres de calcul. Donc je ne peux absolument pas dire une commune. Vous allez augmenter, enfin, si rien n'a bougé, vous baissez, ça c'est mécanique. Mais si vous avez augmenté de population, etc., je ne peux pas. On parlait de logarithme tout à l'heure, il faut voir ce que c'est le calcul de la DGF. Donc, mais le logarithme, il n'est pas fixé par moi, il est fixé par quelque chose, par un texte. Et après, on fait des multiplications, des soustractions, des divisions, etc. Et tant que je n'ai pas de point de départ, il me faut un coût en euros et il me faut le logarithme. Sans ça, je ne peux pas calculer. Et ça, c'est le budget qui le fixe. Ah, je peux pas.
Non, parce qu'il y a des évolutions qui peuvent tenir à l'évolution de votre population ou à l'évolution d'autres éléments qui sont pris en compte dans le calcul de la DGF. Il y a aussi certains qui ont des craintes sur les communes chefs-lieux de canton. Il y a un petit problème. Est-ce qu'elles toucheront toujours une dotation complémentaire au titre de chef-lieu de canton ? Apparemment, c'est l'année prochaine, oui. On ne sait pas si ça va durer, parce que théoriquement, il n'y a que les chefs-lieux de canton qui ont, comme les cantons ont été redessinés, les chefs-lieux ne sont plus les mêmes, etc., etc. Autre produit de gestion courante, les loyers perçus au titre des immeubles. Pas de problème de ce côté. Les produits financiers anecdotiques, si vous avez hérité un jour et que vous avez un portefeuille qui vous a été attribué par une généreuse donatrice ou un généreux donateur, comme Saint-Nicolas par exemple. Les produits exceptionnels, on en parle, les reprises sur provision, même chose, transfert de charges, tout ça, c'est des comptes en tant que de besoin. Bah, votre comptable vous dira qui a l'utilité de les utiliser. On va passer à la section d'investissement pour un élément qui est important. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on votait souvent par chapitre. Or en fait, les collectivités locales, en matière d'investissement, ont la possibilité soit de voter par chapitre, soit de voter par opération. Alors quand vous regardez un budget, vous voyez souvent toujours des opérations. La question qui est posée est de savoir si ces opérations sont de l'information.
C'est-à-dire que le maire, lorsqu'il vote au compte 23 la construction de la piscine, la construction de la patinoire, met à un ensemble global, le comptable que nous sommes, paye à due concurrence du 23. En revanche, à un côté, il donne pour information qu'il y a 3 millions pour la piscine et 3 millions pour la patinoire. Il a cette possibilité, mais il a l'autre possibilité, et ça c'est le conseil municipal qui le lui impose, de dire on vote une opération 23, piscine, 3 millions d'euros, et une opération 23, patinoire, 3 millions d'euros. Nous serons, nous, alors, à ce moment-là, tenus par les 3 millions d'euros que le conseil municipal a décidé d'affecter à chacune des opérations. Donc, mais ça on le voit très fréquemment avec vos secrétaires de mairie, lorsqu'elles envoient le budget, il y a une petite case à cocher qui correspond soit à un vote au chapitre, donc 23, 20, 21, dedans vous mettez ce que vous voulez, ou alors à l'opération, et dans ce cas-là, nous on voit apparaître, quand on prend en charge votre budget, le 23, ce qui n'est pas de l'opération, et puis on voit apparaître la piscine, et on sait que les dépenses seront imputées sur ces opérations-là, et que quand nous dépasserons 3 millions, on tirera la sonnette d'alarme. Donc c'est pas neutre. Donc n'oubliez pas, ou vous êtes pour information au budget, ou vous êtes pour vote. Si vous décidez de vote, si le conseil municipal décide de vote, et on nous indique très clairement quelles sont les opérations qui sont votées, et puis il peut y avoir du 23, bien sûr, pour les dépenses courantes d'investissement, on est bien d'accord. Mais quand on a des projets, on peut les voter des chapitres au titre des opérations. C'est ce qu'on dit, le comptable sera tenu par le niveau de vote du budget. Donc, si vous avez des opérations, nous suivrons les opérations.
Donc, les principales dépenses, donc 16, remboursement du capital de la dette, dépenses obligatoires, 20, immobilisation incorporelle, frais d'études. Alors, frais d'études, on les met normalement, les frais d'études, c'est du fonctionnement. La règle, c'est du fonctionnement. Mais on a considéré que des frais d'études qui pouvaient éventuellement être suivis de travaux, on les met au 200, au 20, au 203, en frais d'études. Si elles sont suivies de travaux, on les rebasculera dans le cours des travaux. Si elles ne sont pas suivies de travaux, quelle que soit la taille de la commune, elles seront amorties sur 5 ans.
C'est-à-dire qu'elles retourneront.
Elles retourneront
en fonctionnement.
Donc, 21, immobilisation corporelle matérielle, bon, vous achetez un camion, vous achetez un machin, etc. Des travaux que vous faites et qui sont courts, vous n'êtes pas obligé de les mettre en travaux en cours, vous pouvez les mettre directement sur le compte d'habitation définitive du 21. Des travaux en cours, là, en règle générale, c'est des travaux qui vont dépasser, qui vont avoir plusieurs acomptes et qui vont dépasser l'exercice budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas finis dans l'année. C'est pour ça qu'on les met au 23. Alors, pour des petites collectivités, ça n'a pas spécialement d'incidence. Mais pour des collectivités qui amortissent, c'est une incidence. Pour les plus de 3005, c'est qu'on n'amortit pas quelque chose qui est en cours. On amortit quelque chose qui est fini. Donc, c'est pour ça. Parfois, on vous embête en vous disant, ça fait 2 ans que vous avez du 23, il n'y a pas eu d'opération depuis, il faut les basculer au 21. Et pour des communes qui amortissent, c'est une incidence budgétaire, c'est-à-dire ça générer de l'amortissement. Alors que le 23 ne génère pas de l'amortissement. Et ça, c'est une règle. Quand on parle d'équilibre réel, c'est aussi une règle. Parce que si vous mettez tous vos biens, c'est tous vos biens au 23, hein, par exemple des travaux d'assainissement, là tout le monde les amortit. Si vous les laissez au 23 pendant 2-3 ans, ça veut dire que pendant 2-3 ans, ben, vous ne faites pas d'amortissement. Donc votre budget, quelque part, manque de sincérité à ce niveau-là. Donc, du
je
budget...
C'est ce que j'ai dit. Non, je vais en arrière.
Ah oui, d'accord.
Je suis gâteux. Alors, 24, 26...
Alors, 24, alors participe à, 24, ouais. Mobilisation affectée, ça, moi, j'en ai prévu beaucoup.
0,20.
26, c'est participation. Et 0,20, c'est dépendant des dépenses imprévues qu'on a vues tout à l'heure, fonctionnement, c'est le même fonctionnement. Ah, c'est exactement le même fonctionnement.
Les recettes.
Alors, les emprunts. Les emprunts. Hein.
Donc ça, c'est la souscription des emprunts que vous décidez pour assurer le financement de vos investissements. Alors, les dotations, fonds divers, TVA, taxes d'aménagement, anciennement taxes d'urbanisme.
Maintenant, désormais, taxe d'aménagement.
Donc on vous a dit, mes filles, regardez bien
les taux,
les délibres que vous avez prises.
Le FCTVA, qui est à N plus 1 ?
Pour ceux qui
Est-ce que vous comprenez ? Non. Alors, N plus 1, c'est-à-dire que quand il y a eu un programme de relance, ça reviendra peut-être, il y a eu un programme de relance, je ne sais plus en quelle année, non, tout le monde n'y est pas. Non. Il y a eu un programme de relance, l'obligation des communes était de dépenser 1 euro de plus que l'année précédente. Bon nombre de communes ont pu faire 1 euro de plus. Hein. Malheureusement, les petites communes, si vous aviez, il y en a certaines, j'en ai eu quelques-unes, qui avaient investi 60 000 euros, mais leur surface financière ne leur permet pas. Je t'avais dit que le truc, je le tiens maintenant. La surface financière ne leur permet pas de faire deux fois 60 000 euros. Ben donc, ils sont restés aux restitutions de la TVA à N plus 2, c'est-à-dire qu'en 2014, ils touchent de la TVA sur 2012. En revanche, toutes les communes qui sont passées à N plus 1, bien, la TVA leur est récupérée l'année suivante. Les EPCI, c'est l'année en cours. Hein. Donc, c'est pas la peine de... Donc, le FCTVA... Un État a déposé à la Prève, attention, cette année la Prève regarde de très très près les États de FCTVA. Et j'ai plusieurs communes qui m'ont dit, moi elle m'a retiré 5000 euros, elle m'a retiré 15000 euros, elle m'a retiré ça, notamment tout ce qui est construction de logements locatifs, pas de FCTVA. On est bien d'accord. En tout cas, la PREF a retoqué certains états et a réduit...
C'est 15.
15,9.
Maintenant, c'est 20.
Non.
C'est 15,600 et des poussières.
15,800
et des poussières.
15,800. Voilà,
c'est ça. Voilà, donc, les subventions.
Alors, après, vous avez les subventions. Alors là, on est bien dans le cadre de subventions d'investissement.
Virement. Alors, on retrouve...
Le pendant du 23.
Le pendant du 23. Le virement à la section d'investissement, c'est ce qui va vous permettre d'équilibrer votre budget. C'est l'autofinancement que vous avez prévu en fonctionnement. C'est la même somme qui est en investissement, on est bien d'accord. Hein. Il ne peut pas y avoir d'écart entre les deux. On est bien OK. Le produit des cessions.
Alors le produit des cessions, c'est une aberration comptable. Pour ceux qui font de la compta privée, c'est vraiment une aberration comptable. C'est-à-dire qu'il a été décidé à un moment donné, pour les collectivités, de considérer qu'une cession d'actifs, c'était de l'immobilisation. Même si après, les écritures vont se faire en fonctionnement. Donc, si vous avez des cessions d'actifs à prévoir, il ne faudra pas les mettre sur les comptes. 775, qui est le compte de cession le plus connu, il faudra les mettre au 0,24. Parce que si vous le mettez au 775, votre budget sera déséquilibré, parce que la machine va le retirer automatiquement. Donc, il faut bien le mettre au 0,24. Et après, il y a des écritures qui se font de manière mécanique. Et ça, il faut voir vraiment avec votre comptable qui vous donnera, il vous fera un tableau. Hein, moi, quand il y a des sessions, je fais un tableau et je dis, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. C'est mécanique. Là, il n'y a pas de décision modificative à prendre puisqu'on va jouer sur des comptes de fonctionnement de dépenses. Mais c'est ce qu'on appellera des décisions modificatives techniques qui seront générées par l'outil.
Alors, ceci dit, les cessions de patrimoine des collectivités locales, il ne faut jamais oublier que ça constitue quand même bien des recettes d'investissement. On est bien d'accord que vous vendez votre patrimoine. On a eu des opérations relativement importantes dans les années, disons dans les 10 années qui précèdent, notamment les grosses collectivités se sont souvent débarrassées des logements de fonction, des instituteurs qui, désormais professeurs des écoles, ne pouvaient plus en bénéficier. Hein, on est bien d'accord. Donc, on est bien en investissement, ça constitue effectivement une ressource d'investissement.
C'est ça.
Mais donc, au budget, quand vous les présentez, vous les mettez en investissement, ce qui est leur issue finale, leur destination finale, c'est l'investissement.
C'est bien sûr. C'est comme ça. Alors.
Voilà un bel équilibre du budget. On vous montre un peu. C'est très théorique, on vous montrera quelques chiffres, mais pour l'instant, c'est simple. Alors, vous allez me dire une chose, le petit carré, là, épargne brute, il ne correspond pas à l'autofinancement. Je vous ai dit qu'il devait être de la même somme. Bon, c'est vrai. Pourquoi on a assuré ça? Je vais vous le dire tout de suite. Mais vous voyez donc que globalement, l'équilibre du budget, il se fait dépenses, recettes,
solde de la section de fonctionnement, 0. Dépenses, recettes, solde de la section d'investissement, 0. Alors pourquoi j'ai fait l'autofinancement un peu plus gros? Eh bien, simplement une remarque. Une bonne gestion, cela veut dire qu'avec vos ressources propres, c'est-à-dire qu'avec les ressources de fonctionnement, vous couvrez le remboursement du capital de votre dette. On est bien d'accord ? Vous, à titre personnel, vous ne faites pas d'emprunt pour rembourser les emprunts. Il vaudrait mieux que la commune ne fasse pas d'emprunt pour rembourser les emprunts. Le jour où on en arrive là, bonjour la Chambre régionale des comptes, il va y avoir des coups de bambou sur les impôts, etc. Donc, c'était simplement pour vous montrer que... Alors, ce raisonnement, vous ne le tenez pas sur une année. Ce raisonnement, il se tient, allez, sur 5 années. Voilà, sur les 5 dernières années, on voit si, en exécution cette fois-ci, parce que là, n'oubliez pas que nous sommes toujours en prévision, si en exécution, on a bien toujours cette structure, c'est-à-dire si ce que je dégage chaque année à la fin de mon exercice de fonctionnement couvre bien au minimum le montant du 16 et me permet en plus, après derrière, de faire des folies en construisant une piscine, etc. En participant, en tout cas, au financement de mes investissements réels, qui peuvent être une piscine ou une patinoire. Voilà. Donc vous voyez les boîtes de financement, comme vous avez dit Paul, il n'y en a pas énormément. Hein. Votre autofinancement, les subventions, les dotations, on retrouve la TVA, vous trouvez toutes les dotations que vous avez au titre de l'État, de la région, etc. Bon, vous verrez bien ce qu'il en est. Hein. En ce qui concerne le département, donc le département, il y a petite inquiétude, tout simplement, que ça va changer, il va y avoir des élections, donc peut-être que le département va peut-être changer ses règles de fonctionnement et d'attribution. Donc, à vous de voir, ceci dit, ça ne vous empêche pas de déposer les dossiers. Hein. Donc, et la région, et puis enfin, le dernier élément, les emprunts.
Donc, comment respecter l'équilibre? Inscrire des charges récurrentes. Il faut vous dire que quand vous allez faire un budget, un peu comme l'État cette fois-ci, vous avez, allez, au bas mot, 90% de reconduction, quasiment, des dépenses des années précédentes. Vous allez avoir quoi? Les salaires. Sauf si vous avez eu, bien entendu, pas mal de salariés qui sont partis à la retraite que vous n'avez pas remplacés. Mais en règle générale, vous avez donc les salaires, avec les impondérables des salaires qui s'appellent les charges. Avec le glissement vieillesse, technicité, les promos, les machins, etc. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Là-dessus, après, vous avez vos emprunts qui vont couvrir les intérêts des emprunts. Tout ça, ça va représenter, allez, bon an, mal an, 80% de votre budget. Après, vous avez les recettes. Après, il faudra intégrer ce qu'on appelle les dépenses nouvelles, les opérations nouvelles qu'il faudra mettre là-dessus. Donc, quand vous allez faire votre budget, il faut d'abord réfléchir à savoir ce que vous êtes obligé d'y mettre. Avant de vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Parce que si vous commencez à dire, je vais... Là, on est en fonctionnement. Si vous commencez à dire, je vais faire du ravalement de la façade de la mairie, etc., qui est du fonctionnement, puisque la mairie, elle existe. Elle était propre il y a 10 ans, elle est sale maintenant, vous la ravalez, elle redevient propre. Vous ne gagnez rien en valeur. Vous ne rajoutez pas une valeur à ce niveau-là. Donc, mais avant d'en arriver là, il faudra vous dire, voilà, ce que je vais dépenser. Je dépense de manière obligatoire, et qui ne, de toute façon, ce sont des impondérables, je n'ai pas le choix, voir quelle est après ma marge de manœuvre pour faire d'autres choses en fonctionnement, en sachant qu'il faut que je dégage de l'autofinancement. Donc, pareil pour les produits, et après, donc, des produits attendus, alors, ils sont connus, recettes fiscales, vous les connaîtrez, dotations, vous les connaîtrez, ça représente, là aussi, presque 80% des budgets. Alors, la courbe va s'inverser entre les dotations et la fiscalité. Parce que dans certaines communes, les dotations sont supérieures à la fiscalité. Mais avec la baisse de la dotation, de toute façon, vous allez être obligé, si bien sûr, avec vos éléments de calcul de la dotation ne bougent pas, même nombre d'habitants, même kilomètre de voirie, etc., 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 si tout ça ne bouge pas, vous allez avoir une baisse mécanique, parce qu'elle a été annoncée. De la dotation, c'est un secret pour personne. Donc, vous n'aurez pas de compensation de baisse de dotation. Ils ne vont pas dépenser de l'argent à vous donner en compensation ce qui vous enlève de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une baisse brutale, hein, que vous allez subir. Donc il va falloir trouver des victimes. Soit vous avez de la marge de manœuvre, vous avez des forêts, vous avez des terrains, vous avez des choses. Il y en a encore. À les Vosges, il y en a encore. Soit vous avez tout ça, et c'est très bien, donc vous avez de la marge. Soit vous ne l'avez pas, et bien vous allez jouer avec vos marges à vous. Vos marges à vous, vous allez très vite vous rendre compte.
Hein,
il y a les impôts. Ou alors, il y a des locations, si vous avez des revenus fonciers, parce que vous louez, etc. Mais bon, s'il ne faut pas revoir des loyers, quand il y a changement de locataire, etc., etc. Donc là-dessus, vous aurez des marges de manœuvre. Et puis après, inscrire les résultats antérieurs.
On va y venir sur les résultats antérieurs. Pour l'instant, on n'en avait pas parlé. Mais il est bien évident que la commune n'a pas commencé le 1er janvier 2014. Donc au 1er janvier 2014, il y avait des résultats. Il y avait du, j'espère, quand vous êtes arrivé, il y avait du pognon dans la caisse en fonctionnement. Et il y avait également un déficit. Il y avait également un déficit d'investissement, mais que le fonctionnement couvrait. Donc il y avait des antérieurs, donc on va voir comment vous les reprendrez cette année.
On vous dit, l'inscription des résultats est obligatoire si le compte administratif est voté. Même si le compte administratif n'est pas voté, ça vient de l'ancien temps, on va dire, où quand vous faisiez vos budgets, ce qu'on appelle le budget primitif, quand vous faisiez vos budgets, vous n'aviez pas encore le résultat de l'année précédente, parce qu'on n'était pas informatisé, etc., etc. Et donc votre budget primitif, c'était vraiment un budget pour l'année N, pour l'année que vous alliez exécuter. Et après, on faisait un budget supplémentaire dans lequel, très souvent, on réintégrait tous les résultats. Au jour d'aujourd'hui, vous aurez vos résultats, hein, puisque nous, on vous demande de clôturer vers le 2 janvier, hein, pour être sûr, hein, et on vous fait des comptes de gestion, et sur les comptes de gestion, vous avez vos résultats. Donc ça, vous les avez beaucoup plus tôt qu'avant, et c'est pour ça que on inscrit, la plupart des communes inscrivent dès le budget primitif les résultats antérieurs. Mais c'est une obligation si le CA est voté. Si le compte administratif est voté, c'est une obligation des inscrits. Si le compte administratif n'est pas voté, vous pouvez ne pas les inscrire. Donc voilà, évaluer, affiner.
Donc après, vous vous rendrez compte que le gros du problème, les gros problèmes auxquels vous allez être confronté, c'est l'équilibre du budget. Si vous avez des investissements, l'autofinancement, comment je finance mon investissement, quelle est la part des emprunts, est-ce que je peux aller aux emprunts, jusqu'à combien je peux aller, si je ne peux pas, qu'est-ce que je supprime comme investissement, je ne peux pas faire plus d'autofinancement, je suis obligé d'augmenter mes... Voilà, le mécanisme de l'équilibre de votre budget, ça va être généralement ça. En général. Maintenant, il peut y avoir des problèmes spécifiques. Oui.
S'il vous plaît, quand on parle d'équilibre budgétaire, donc du budget C, on veut dire des budgets, puisque il n'est pas rare de penser que, par exemple, le budget eau assainissement, vu les recettes que l'on se crée, peut être excédentaire.
Alors, quand on parle d'équilibre budgétaire, qu'on soit clair, équilibre budgétaire, c'est la définition qu'on vous a donnée.
Hein.
Il est certain, et ça c'est un gros débat. Moi je vais vous répondre, vous n'avez pas le droit de voter en déséquilibre. Par contre, c'est vrai que maintenant, comme dans les budgets primitifs, on a tendance à intégrer les résultats des années antérieures. Vous pouvez, en effet, si vous avez beaucoup d'excédents, voter votre budget, ce qu'on appelle un suréquilibre.
Mais vous affolez la préfecture.
Bon, la préfecture, mais c'est pas, vous ne serez pas déséquilibre réel, puisque vous avez ce que vous ne ferez pas, c'est-à-dire, bon, on le voit, moi je l'ai vu quand je faisais les budgets dans les Vosges, très souvent on me balance les excédents de fonctionnement dans travaux divers. On mettait au 615, je ne sais pas quoi, j'avais des masses de travaux divers qui ne se faisaient jamais, mais on cachait l'excédent. À un moment donné, j'ai dit, c'est bien quand ça joue sur Peanuts. Mais quand ça joue sur beaucoup, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'ai un excédent comme ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que faire de l'excédent, c'est bien. Il vaut mieux faire de l'excédent que du déficit, effectivement. Mais la question qu'il faut se poser, si vous avez un budget de 500 000 euros et que vous avez 400 000 euros d'excédent,
vous pouvez abandonner une année.
Vous pouvez prévoir d'utiliser l'excédent. La cagnotte, si vous voulez, l'écureuil, en matière de budget, n'est pas automatiquement une très très bonne chose. Et on l'a vu, hein, des communes...
Pardon ?
C'est quand même une nécessité par rapport au manque d'avoir un minimum de trésorerie.
Non, on parle d'excédent, on ne parle pas de trésorerie. on parle d'excédent, de résultats budgétaires. Hein.
Si vous voulez, non, mais la question qu'il faut toujours se poser quand vous faites un budget, c'est de vous dire, j'ai un excédent. Alors, une bonne, mauvaise gestion, le terme n'est pas là. J'ai un excédent. Cet excédent, il n'est pas là. En lui-même, il ne représente rien. L'excédent devient intéressant lorsque vous l'utilisez pour faire quelque chose. Et comme on vous a dit, c'est le fonctionnement qui va venir sur la section d'investissement. Alors, il s'avère que c'est plus facile de faire des investissements quand vous avez des excédents. Mais vous avez des collectivités qui n'ont pas d'excédents colossaux et qui font des investissements parce qu'ils empruntent. Et emprunter, c'est pas
dramatique.
C'est pas dramatique. Et qui font des choses et qui arrivent à le supporter parce que par la suite, après, elles gèrent leur section de fonctionnement en fonction des remboursements. Donc, il n'y a pas de... Je donne pas de bonne ou de mauvaise gestion. Là où je dirais qu'il y a un problème, c'est si vous avez 500 000 euros d'excédent pour un budget de 500 000. Parce que là, votre budget est automatiquement...
Il y a un problème.
Vous allez faire quoi ? Soit vous allez gonfler de manière artificielle les dépenses pour dire la préfecture veut qu'il soit équilibré. Mais moi, je serai à la préfecture, je dirais, mais vous n'êtes pas en équilibre réel puisque vos dépenses ne sont pas sincères. Puisque vous n'allez pas dépenser 500 000 euros pour faire la peinture à l'intérieur de l'école.
Ah, mais une subvention à l'association des maires, c'est possible.
Voilà.
Chasser le naturel, il revient au galop.
Ah, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez voter, je vous le dis, vous pouvez voter un budget en suréquilibre. Si ce suréquilibre vient de l'excédent. Ah, c'est-à-dire que vous ne générez pas de la recette artificielle. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? S'il vient de l'excédent reporté, ben vous vous dites, moi sur l'année, j'ai mes dépenses, j'ai mes recettes, hein, je suis à zéro, mais j'ai mon excédent. Donc l'excédent, il faudra l'intégrer à un moment donné dans votre budget. Ben, je n'ai pas de recettes, de dépenses à lui mettre en face. Et bien, vous mettrez vos...
Et il n'a pas un risque à ce moment de baisser le taux des impôts.
Ah, mais ça...
Ça, c'est pas un risque qu'on vous demande, c'est que vos contribuables, quand ils vont vous croiser dans la rue, vont vous dire, faudrait peut-être arrêter, monsieur le maire.
Non, mais...
vous avez du pognon à plus savoir qu'en faire. C'est une réflexion que j'avais faite à l'une de mes communes. Hein.
La Cour des comptes peut
rien.
Non.
Non, non, non.
C'est
non.
La gestion. C'est
le conseil municipal qui peut le faire.
C'est de votre gestion personnelle. C'est de votre gestion personnelle. C'est-à-dire que dans votre gestion, vous avez fait ça et vous êtes arrivé. Bon, il y a des communes vosgiennes hein, qui étaient très riches parce qu'elles avaient énormément de bois, mais il n'y avait pas d'impôt. Il n'y avait pas d'impôt. Il y a eu la tempête. Pendant au moins 2 ans, elles ont eu des difficultés. Après, elles ont reçu des primes d'assurance qui ont largement couvert hein, tout le reste. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'impôt et elles dégageaient de l'excédent. Elles étaient toujours excédentaires, elles votaient des budgets à l'excédent. Hein, mais c'est pas... Si vous voulez, le suréquilibre sera accepté. Le suréquilibre. Et par contre, après, ce que disait Michel, c'est si moi je vous croise... Hein, je vois que vous avez un excédent qui représente tout le budget. Je veux dire, attendez, on peut faire une pause. Voilà.
Je veux dire, si on a des gros investissements prévus qui représentent 4 à 5 années d'autofinancement, on peut avoir intérêt à rester une piquette.
Mais si vous avez des dépenses à mettre en face en investissement, il n'y a aucun problème. On parle, si vous voulez, de...
Ce sont des investissements qui peuvent se dérouler...
Absolument, absolument. Non mais... On parle d'investissement, j'allais dire chronique, c'est-à-dire 4-5 ans, on accumule, et manifestement la commune n'a pas décidé d'utiliser. Si vous avez des investissements à faire dans les 2 ans, le problème ne se pose pas. Ça, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Mais c'est vrai que la Cour des comptes, et c'est ce que disait un de mes élus à une époque, je lui disais, vous avez des gros excédents, la Cour des comptes ne vous fera pas le grief d'avoir une mauvaise gestion, mais vous dira à quoi ça sert que vous leviez l'impôt. Chaque année, on augmente de 200 000 euros un excédent qui commençait à atteindre des sommes colossales. Donc voilà, c'est pas une bonne gestion que d'accumuler, accumuler, accumuler. On est bien d'accord.
Il y a un virement en budget annexe, c'est toujours...
Des subventions en budget annexe.
Non, un virement, une subvention en budget annexe.
Oui, subvention d'investissement.
C'est quand on veut maintenant, avant c'était une seule fois.
Normalement, les budgets annexes, qui tournent. Parce qu'au départ, il y a eu des subventions qui ont été versées au budget annexe, au assainissement, parce que de toute façon, le budget annexe n'existait pas. Il n'y avait rien. Donc, quand vous avez commencé à faire des travaux, il fallait bien les financer. Donc vous avez emprunté au titre des budgets annexes, mais vous avez eu des subventions de l'agence de l'eau, etc., etc. Mais le budget annexe en lui-même n'avait rien, n'avait pas de recettes, n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de taxes, il n'y avait rien du tout. Donc on vous a permis de verser des subventions, ce qu'on appelait des subventions d'équilibre, à plus ou moins, qui partaient de la commune et qui allaient sur le budget annexe. Ça, c'était mais un budget annexe qui tourne, normalement, il ne devrait plus avoir besoin, puisqu'il doit s'auto-réguler, c'est-à-dire que par le biais des taxes ou du tarif de l'eau ou de tout ce que vous voudrez, il devrait normalement s'auto-financer. Maintenant, s'il y a vraiment de très très gros problèmes, il n'y a pas une décision de la commune à verser une subvention au budget annexe, à mon avis.
Faudra le légitimer devant le...
La légalité.
Devant la légalité, qui vous dira non sur le principe, mais après il faut essayer. On a des problèmes. On a aussi eu des problèmes avec les CCAS de communes de moyenne importance qui font des amortissements et qui montent en fonction d'investissement des sommes et des sommes et des sommes, alors qu'elles ne font pas d'investissement. Elles ont un patrimoine qu'elles amortissent. Donc voilà, on se trouve devant des problèmes de cette nature, on pensait que ça allait être résolu et puis ça ne l'a pas été.
Mais faites attention de ne pas générer des excédents dans vos budgets annexes. Parce que ça, vous ne les retrouverez pas d'un côté.
Voilà, attention.
Parce que les transferts d'excédents d'un budget annexe vers une collectivité, ce n'est pas si simple que ça. Donc faites attention à ne pas gonfler.
Dans l'autre sens, hein. Pour les ventes de bois, c'est possible. Le budget bois, on peut reverser sur le budget communal.
Vous pouvez reverser... moi je l'ai fait sur les Vosges, on pouvait reverser à due concurrence... des subventions, etc., qui avaient été versées par le budget principal, initialement, pour les investissements en bois.
Vous avez un budget autonome pour les coupes de bois ?
Ah oui, il y en a, oui. Oui, il y en a.
On va continuer, parce qu'autrement, on sera encore là au bout de la nuit. Hein. Donc voilà un exemple de budget chiffré. Les éléments à retenir, 0,23, virement à la section d'investissement. Et un élément important, 230 000 euros excédent de l'année précédente. Ça vous permet d'équilibrer votre budget. Donc, votre budget, il est équilibré par les recettes que vous votez au titre de l'année en cours, par la reprise des excédents que vous avez, on souhaite que vous ayez des excédents, et de l'autre côté, il assure le financement de l'ensemble de vos dépenses courantes et de votre autofinancement prévisionnel, qui est les 250 000 euros de virement à la section d'investissement. La section d'investissement, même chose, on va y revenir, la section d'investissement généralement déficitaire, on va vous expliquer, vous comprenez très bien pourquoi. Vous voyez l'ensemble des dépenses qui sont prévues en matière d'investissement, l'ensemble des recettes, et vous voyez une recette un peu bizarre, affectation du résultat, on peut la définir comme étant l'autofinancement réalisé par la commune au titre de l'année en cours. On va voir comment il se calcule. D'accord ? Donc vous voyez encore une fois que le budget est parfaitement équilibré en dépenses et en recettes. Bon voilà. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu un budget ou qui vont voir pour la première fois à la fin de cette année un budget, qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Selon toute vraisemblance, et c'est ce qu'on vous souhaite, un excédent de fonctionnement. C'est normal. C'est traditionnel. Si vous avez un déficit, il faudra commencer à aller voir votre comptable peut-être et à vous poser des questions. Et mais vous si donne, vous avez...
Il ne vous donnera pas de sous.
Hein. Vous, voilà, c'est non, il ne faut pas rêver quand même. Mais en tout cas, vous allez le retrouver avec un excédent de fonctionnement. Dans un deuxième temps, pas d'inquiétude, vous allez vous retrouver avec un déficit d'investissement. Pourquoi ça ? Ben, tout simplement parce que vous savez très bien qu'en matière de dépenses, en général, si vous avez signé un marché, ça se fait de matière régulière. Et vous savez très bien que l'ensemble, par exemple, de vos subventions, eh bien, tombe au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Et le solde vous est versé à la fin des travaux. Donc, imaginons que vous ayez un investissement uniquement financé par emprunt, ben vous voyez très bien qu'à un moment donné, vous aurez 100 dépenses et vous n'aurez que 80 de recettes. Les 20, eh bien, ce sera pour l'année prochaine. Donc, naturellement, vous avez un déficit. On s'efforce quand même, c'est préférable, que le solde algébrique de ces deux déficits reste positif. C'est-à-dire que vous ayez quand même, globalement, une situation financière positive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la caisse, c'est que la trésorerie est toujours là. Hein. Ça veut dire ça. Alors, on est à la fin de l'année. La question qui se trouve posée à la fin de l'année, c'est comment est-ce qu'on passe à l'année suivante? Alors on règle le problème du fonds, on règle, enfin, un élément. Le 1er janvier, il n'y a plus de budget communal 2015. Le 2014, il est mort. On est bien d'accord. Donc, le 2 janvier au matin, Paul et moi, nous ne pouvons faire aucune dépense. C'est clair. Alors soyons sérieux. En matière de fonctionnement, le budget de l'année 2014, jusqu'à ce que vous ayez voté votre budget 2015, est reconduit. Donc on peut dépenser à due courante des dotations que vous avez mises en 2014. Donc ça règle le problème pratique des 3-4 premiers mois de l'année jusqu'à ce que vous votiez votre budget, premièrement. Même chose, le 16, en matière d'investissement, les crédits sont automatiquement ouverts à due concurrence de ce que vous avez payé en remboursement de capital. Donc pas de problème de ce côté-là. Donc en fonctionnement, ça tourne. En investissement, en revanche, zéro. Il n'y a rien. Vous avez voté l'année dernière, mais rien n'est repris pour l'instant en investissement. Alors, monsieur le maire, le 2 janvier au matin, une fois qu'il a terminé de cuver les festivités, nous établit un état des restes à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, monsieur le percepteur, l'année dernière, j'ai ouvert 3 millions d'euros pour faire la patinoire. J'en ai dépensé qu'un million et demi, et pour cause. La patinoire, ça ne se réalise pas en un an. On est bien d'accord. Donc, monsieur le percepteur, je vous reporte, au titre de la gestion 2015, 1 500 000 euros. Nous vérifions, nous comptables, qu'il y avait bien 3 millions d'ouverts, qu'il y a bien eu 1,5 million de dépensés, et qu'il y a bien 1,5 million. Le maire procède toujours de la décision qu'a pris le conseil municipal l'année précédente de l'autoriser à payer 3 millions d'euros. On est bien d'accord. Il n'a pas. Si demain il nous dit « je vous ouvre 2 millions », le comptable du trésor dira « zéro, on vous a autorisé 3 millions, vous en avez posé un 5, vous ne pouvez reporter qu'un 5. Si vous en reportez plus, vous ouvrez les crédits indépendamment de l'autorisation que vous aurez donnée votre conseil municipal. Donc zéro. » Ça, c'est en matière de recettes, de dépenses. Et il fait exactement la même chose en matière de recettes. Alors, soyons clairs, c'est moins important. C'est moins important pour l'exécution budgétaire. Mais on va voir tout de suite après que c'est beaucoup plus important dans une autre démarche à quoi servent les restes à réaliser. Qu'est-ce qu'il va me dire le maire en matière de recettes? Il va dire, voilà, j'avais prévu un emprunt de 500 000, j'ai signé avec la banque, mais je n'ai eu besoin l'année dernière que de 300 000, donc il me reste 200 000 à reporter. D'accord, monsieur le maire. J'avais des subventions pour 500 000 euros, j'en ai touché 300, il m'en reste 200 à encaisser. D'accord, monsieur le maire. Voilà. Il va me faire ces deux états, moins importants en matière de recettes, essentiels en matière de dépenses, puisque ça nous permet le 2 janvier au matin de payer, de continuer à payer la construction, bien évidemment, de la piscine ou de la patinoire. On est bien clair. Et le maire ne fait simplement, c'est pour ça que c'est de la compétence du maire, que reprendre les crédits que vous lui avez autorisé à dépenser l'année précédente. Il n'a rien créé de nouveau. On est bien clair.
Alors, faut être aussi très clair, les restes à réaliser pour les dépenses, c'est uniquement si elles sont engagées. Engagées, ça veut dire un engagement au moins juridique, c'est-à-dire demande de devis, signé et accepté, signature de marché, hein, ou de nos conventions, ou tout ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait un document signé par l'ordonnateur, le maire, qui atteste que la dépense a bien été engagée. Vous commandez demain, vous commandez le 20 décembre un camion, vous avez un bon de commande, en bonne et due forme, eh bien, le camion, vous n'aurez pas le 31 décembre. Donc, vous risquez de le recevoir au mois de janvier, février, etc. Donc, vous allez mettre, dans état des restes à réaliser, à reporter, vous allez mettre le montant du camion. Et vous pouvez attester, vous pouvez prouver que la dépense est engagée. Pour les recettes, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas mettre à recette, à réaliser, à reste à réaliser recettes, des recettes qui ne sont pas engagées. Alors, engagement de recettes, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est-à-dire, on parlait de l'emprunt. on ne vous oblige pas à avoir signé le contrat d'emprunt, mais au moins avoir fait des démarches, comme quoi vous avez fait une démarche auprès d'une banque pour avoir un emprunt. Parce que bon, signature de contrat, c'est un peu plus compliqué. Pour les subventions, il vous faut la notification de subvention. Ou alors, on va faire la démarche de demande de subvention. Se pose le problème du fonds de compensation de TVA. Parce que le fonds de compensation de TVA que vous mettez sur votre budget, c'est lequel? C'est celui que vous allez percevoir ou c'est celui que vous pensez percevoir pour l'opération que vous êtes en train de faire? Le fonds de compensation n'est jamais une recette à réaliser. Pourquoi? Parce que la préfecture vous verse à l'année N ce que vous lui avez demandé au titre de N-1 ou de N-2. Et elle vous verse tout. Donc si vous mettez du fonds de compensation en reste à réaliser, la préfecture risque de vous retoquer votre état. Puisqu'elle considère qu'elle vous a notifié 1 000 euros, elle vous a versé 1 000 euros. Que vous ayez mis 10 000, etc., etc. Et elle pourrait même être regardante sur les budgets. Puisque lorsque vous dites « je finance mon opération avec du fonds de compensation TVA », normalement vous devriez financer votre opération avec le fonds de compensation des opérations passées. Puisque le fonds de compensation TVA, vous n'allez jamais le toucher l'année N, vous allez au pire, au mieux, le toucher un plus. Donc c'est là qu'il faut être...
La préfecture est très attentive, notamment en matière de recettes. Je pense que certaines collectivités, je ne parle pas d'ici, hein, mais je vous citerai des exemples dans la région parisienne, où on avait depuis 10 ans 3 millions d'emprunts qui tournaient et qu'on ne réalisait jamais. Voilà, on faisait des lignes de trésorerie, on faisait tout, mais on ne les réalisait pas. Il n'y avait pas l'intention des élus de réaliser ces 3 millions d'emprunts. Donc on tournait grâce à des lignes de trésorerie, on jonglait au fil de l'eau. Voilà. Donc la presse en général souhaite, comme l'a dit Paul, un engagement, une signature d'un contrat, pas en bonne et due forme, mais la banque vous disant j'accepte vos 500 000 euros, etc. Un document, les subventions, vous ne pouvez pas les inscrire comme ça en disant tiens j'ai peut-être une chance d'avoir 500 000 euros de la région. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que la région vous a notifié en disant voilà, ça fait 30% de votre dépense, je vous verserai 500 000 euros. On est bien d'accord. Ça n'est pas neutre. L'état des restes à réaliser en dépenses et en recettes n'est pas neutre. En recettes, en dépenses, il nous sert à payer, à due concurrence de ce que vous avez. En revanche, vous avez, vous, une obligation à la fin de l'année à financer votre déficit d'investissement. Je vous ai dit qu'à la fin de l'année, vous aviez 200 000 euros de déficit d'investissement. La loi vous fait obligation de le financer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous preniez en fonctionnement les 200 000 euros et que vous les montiez en investissement. Cette opération, malheureusement, elle ne se fait pas au titre de l'année en cours, elle va se dénouer au budget de l'année suivante. Mais vous avez cette obligation. Seulement, le législateur dit quand même une chose, il dit oui, vous avez comptablement 200 000 euros. Mais qu'en est-il de vos restes à réaliser? En dépenses et en recettes.
Après.
Mieux aller tout de suite aux chiffres. J'ai changé les chiffres, ça a peu d'importance. Le déficit d'investissement était de 150 000 euros. Comptablement, l'exécution de votre budget, section d'investissement, vous êtes mis d'accord avec le comptable, on est à 150 000 euros. La loi vous dit, vous prenez 150 000 euros en fonctionnement, vous les montez en investissement. Mais la loi vous dit quand même, attendez, qu'est-ce qui vous reste comme dépense à faire au titre du budget qui vient de se terminer? Vous en reste 230. Ah, ben ça fait 150 plus 230, ça va faire 380 à financer, cher monsieur. Parce qu'il faut que vous boucliez l'ensemble de votre budget. Puis il vous dit aussi, ah, vous avez les restes à réaliser, recettes, 148 000 euros, ah, on va les déduire. Donc, votre besoin de financement de la section d'investissement, c'est 232 000 euros. C'est le solde algébrique entre votre déficit, vos restes à réaliser dépenses, sur lesquels on déduit les restes à réaliser recettes, le montant de l'autofinancement que vous allez devoir constater est de 232 000 euros.
Et ça, tout à l'heure, quand on vous a montré le budget, la section investissement, il y avait ce qu'on appelait le compte 1068. C'est cette somme-là qu'il faudra titrer au 1068. C'est pas le résultat au 31 décembre, hein, le classique, c'est le résultat du 31 décembre réajusté avec les restes réalisés. Et c'est pour ça que les restes réalisés sont extrêmement importants, parce qu'ils viennent pondérer votre résultat d'exercice. Pourquoi ils viennent le pondérer? C'est qu'on part du principe que le conseil municipal a voté un budget. Ce budget est exécuté par le maire. Le maire l'a exécuté, mais n'a pas pu payer, puisque les opérations, etc. Donc on est toujours sur le budget voté. C'est pour ça que l'année d'après, on ne revote pas sur les restes réalisés. On ne revote pas, puisque c'est déjà voté. On vote sur la colonne vote, mais pas sur les restes réalisés, puisque le conseil municipal a déjà voté. Il ne va pas revoter sur les restes réalisés. Par contre, sur l'affectation du résultat, puisque là, le conseil municipal vote sur l'affectation du résultat, sur l'affectation du résultat, il faut que ce résultat soit le plus juste possible. Ce n'est pas uniquement l'exécution basique de l'année en cours, c'est l'exécution de l'année en cours avec les restes réalisés en dépenses et en recettes. Ce qui fait que l'excédent d'investissement au 31 décembre, sans restes réalisés, va être 200. Mais avec les restes à réaliser, on peut passer à 200. Et ça peut avoir des incidences sur... Parce que ça peut générer des déficits d'investissement tellement gros que... Tellement gros que la section de fonctionnement ne pourra pas la couvrir.
Et ça veut dire qu'il y a eu un problème dans l'exécution du budget.
Voilà.
On est bien d'accord que le budget que vous avez voté, vous l'avez voté en équilibre. Donc théoriquement, encore une fois... Si c'était exécuté au franc près, le montant de 200 000 euros d'excédent de fonctionnement devrait correspondre au montant de 200 000 euros de déficit d'investissement. On est bien d'accord. Donc si demain, votre déficit d'investissement corrigé des restes, il est à 500 000 euros et que vous avez 200 000 euros de fonctionnement, ça veut dire que ça a merdé quelque part. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Ou vous avez oublié un report quelque chose, ou il y a une recette qui a sauté. Ou il y a quelque chose que vous avez prévu qui ne s'est pas réalisé. Bon, c'est quand même des hypothèses d'école. Mais quand on arrive à ce genre de choses, il faut s'interroger sur l'origine de ce problème.
Parce que ça, le 1068, c'est obligatoire. Vous pouvez la tourner comme vous voulez. Si vous avez un déficit d'investissement, la première chose à faire, c'est de le combler par votre excédent de fonctionnement, qui est diminué d'autant. Par exemple, vous dites, j'ai 200 000 euros d'excédent de fonctionnement, c'est très bien. À côté, vous avez un déficit d'investissement réel, c'est-à-dire avec reste réalisé de 190 000 euros, mais ça veut dire que votre excédent de fonctionnement n'est pas de 200 000, il sera de 10 000. Et ça, c'est une mécanique qui est parfois un peu compliquée, hein, puisque comme maintenant, dans le budget primitif, on met tout, mais il faut s'assurer que vos restes réalisés correspondent à la réalité. Parce que très souvent, on fait du mécanique. On dit, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça. J'ai pas fait, je m'en reste à réaliser, j'ai pas fait, je reste pas, etc. C'est dangereux. Parce que la recette, vous ne l'avez pas. La dépense, vous considérez qu'il faut la garder. Et résultat, vous générez du déficit d'investissement. Ne mettre en reste à réaliser que ce qui est engagé. Réellement engagé. Le reste, eh bien le reste. Si par exemple vous aviez prévu de faire la piscine à 3 millions, hein, vous ne l'avez pas faite, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien signé, etc. Eh bien vous la remettrez au budget d'après.
Vous la mettrez en mesure nouvelle et vous revoterez. Voilà. Si vous regardez votre budget, je pense que ceux qui ont déjà vu un budget, vous avez sur les votes, vous avez la colonne reste à réaliser et vous avez pour vote. Et vous voyez que vous ne votez jamais le montant des restes. Ils sont naturellement reconduits d'une année à l'autre. C'est le maire qui l'a dit. Et nous avons vérifié que ce qu'a dit le maire était conforme à la comptabilité. Donc là, c'est ce mécanisme-là qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Vous le faites une fois par an. Mais je crois que l'opération est simple. On met d'un côté notre excédent de fonctionnement, de l'autre l'investissement. Vous avez deux chiffres, et puis on dit on corrige l'investissement.
qu'est-ce que j'ai engagé comme crédit, je le rajoute. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai encore comme recette à récupérer, je le retranche. Puis vous comparez les deux chiffres. Dit comme ça, c'est très simple. Mais dans la réalité, c'est très simple. Entraînez-vous chez vous, tous les jours vous faites un coup d'affectation de résultat. Quand vous arriverez à la fin de l'année, ce sera... Non mais je pense que c'est vrai que c'est toujours dans ce domaine-là que les collectivités locales, voire que vos secrétaires de mairie, l'ensemble de vos personnels, ont des difficultés. Ben, il n'y a rien de plus simple. Mettez-vous dans l'idée que les restes à réaliser, ça constitue la suite du budget de cette année. Et qu'il faut le financer. Voilà, point.
Et faire très attention, les préfectures regardent de plus en plus les restes à réaliser, nous posent de plus en plus de questions. Nous, on n'a pas la main. On ne sait pas si vous avez engagé ou non la dépense. On ne sait pas. On ne sait pas si vous avez engagé la recette. On n'en sait rien. Mais on nous pose quand même des questions. Voir si l'état des restes à réaliser, qui est joint avec le compte administratif, de toute façon, hein, puisque c'est là-dessus que ça paraît normalement, elle nous demande si c'est bon ou pas bon.
L'état des restes à réaliser, on vous renvoie en retour, en général, un exemplaire signé par demain, alors, de notre part.
On ne regardait peut-être pas nous non plus, je parle pour moi, hein. Je ne le regardais peut-être pas avec un œil très attentif. Je peux vous dire que l'an prochain, je regarde un œil attentif. Voilà.
Parce qu'il peut y avoir des surprises, hein, des retours un peu intempestifs, le somme dont on se demande.
Et les surprises avec la préfecture ne sont rarement bonnes. Alors, bon, il vaut mieux, non, mais il vaut mieux se prémunir. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui... L'affectation du résultat, c'est cet ensemble-là.
C'est le mécanisme qui nous permet de passer d'un exercice à un autre et de savoir exactement au titre de 2015 quel est le pognon dont vous disposez libre. Une fois que vous aurez fait votre affectation de résultat, il reste 100 000, et bien ces 100 000 maintenant vont me servir à financer mon budget 2015.
Donc, une fois que le budget est terminé, l'affectation, donc voilà, on vous a donné à peu près toutes les clés. Enfin, on a essayé de vous donner des clés pour élaborer le budget ou mieux comprendre les mécanismes budgétaires. Donc voilà la chronologie budgétaire. Clôture de l'exercice comptable le 31 décembre 2014, pour cette année.
2015.
Ah oui, 2015. Non.
Non, c'est 1er janvier.
Oui, on a bougé. Ah oui, là, c'est 1er janvier 2015. Donc, clôture de l'exercice. Alors, vous avez ce qu'on appelle la journée complémentaire. Tout le monde connaît ça. Ben, n'y pensez même pas. Puisque la journée complémentaire est de plus en plus ramenée à sa plus simple expression. Et vous verrez qu'à terme, la journée complémentaire sera purement et simplement supprimée. Hein, le jour où vous ferez la certification des comptes, on fera la certification des comptes des collectivités, la journée complémentaire, à mon avis, sautera, puisque vous avez des possibilités d'écriture comptable pour faire des rattachements, etc. Qu'on oblige aujourd'hui à faire. 1er janvier 2014, donc, établissement de... 2015, pardon, établissement de la liste des restes réalisés à l'investissement. Comme a expliqué Michel, ça nous permet de poursuivre le paiement. Si je n'ai pas ça, je ne paye plus rien d'investissement. Sauf une délibération prévoyant 25%, etc. etc. Mais ça, c'est uniquement pour les mesures nouvelles. Ce n'est pas pour les restes réalisés, puisque les restes réalisés sont déjà votés. Alors, le budget de fonctionnement est repris automatiquement et reconduit. C'est ce qu'on appelle le budget de référence chez nous. Il est pris automatiquement. Alors, on va se mettre d'accord entre le trésorier et les secrétaires de mairie, les mairies, pour voir si ce qu'on a dans nos comptes correspond bien à ce que vous avez dans les vôtres.
Au centime près, à l'article près. Ouais.
Alors, avec le PSV2...
Donc, il faudra absolument. Hein.
Avec le PSV2, normalement, il n'y aura plus de problème puisqu'on reprendra vos comptes. Le PSV2, c'est très bien. C'est très bien. Détermination de... Non, mais parce qu'ils ne sont pas passés, qu'ils passent en bien. Détermination des résultats de clôture N-1 qui font bon le truc et débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois avant le vote du budget. Vers le 15 mars, on vous donnera les bases d'imposition de le célèbre 1259. Alors, vers le 15 mars.
C'est pas la peine de téléphoner avant.
Non. Normalement, vous recevez normalement, vous le recevez sur vos boîtes.
Attention, vous le recevez par mail. Hein.
Et avant nous. Parfois, vous l'avez, on n'a pas.
D'accord.
Hein, donc, si vous l'avez, vous nous dites, mais on sait qu'il est parti.
Parce que des fois, on ne sait pas qu'il
est parti. Ah non, non, nous, on n'en sait rien. Nous, on reçoit un message 10 jours après en nous disant que c'est parti. Et on n'en a même pas une copie. Donc, très souvent, c'est pour ça qu'on vous demande de nous en redonner une. Les communications de dotation de l'État, ben de toute façon, vous aurez un calendrier qui, quand vous irez vous connecter sur DG, DGF, Tempur, etc. Vous aurez un calendrier qui vous donnera les dates approximatives auxquelles vous aurez possibilité de voir vos dotations. Normalement, c'est courant mars. 15 avril, 15, date butoir pour voter le budget. Si le budget n'est pas voté, ben vous ne voterez pas. Il sera pris en compte par la Chambre, etc., etc. 30 avril, date limite de transmission du budget. Le budget doit être transmis dans les 15 jours qui suivent son vote. Donc on dit 15 avril, automatiquement, la date limite, c'est le 30 avril. Et avant le 30 juin, vote du compte administratif et du compte de gestion. Compte administratif, c'est votre compte de réalisation d'exécution. Le compte de gestion, c'est le document qu'on vous transmet par voie dématérialisée. Imaginez-vous que pour un CCAS où j'ai 2 mandats dans l'année, j'ai quand même 40 pages de compte de gestion. Pour 2 mandats dans l'année. Hein. C'est pour ça qu'on n'envoie plus de papier. On dématérialise. Hein. On vous envoie la seule chose que vous envoie aujourd'hui, c'est la dernière page, pour que vous signiez la dernière page. Mais ça aussi, ce sera dématérialisé à terme.
S'il vous plaît, le compte administratif, on peut quand même le voter le même jour qu'on fait le budget.
Vous votez
quand vous voulez. Quand vous voulez. Ah, oui.
Le compte administratif, vous le votez du moment où vous avez tous les éléments, où on s'est mis d'accord, hein, où on s'est mis d'accord entre le comptable, entre votre comptable et vos services, on est d'accord sur les chiffres, etc., etc., etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez voter, vous voterez l'affectation des résultats, le compte administratif, et comme vous aurez voté le compte administratif, vous devrez obligatoirement intégrer les excédents. Enfin, les résultats, pardon.
Oui.
Parce qu'il peut y avoir des déficits. Hein. Voilà.
Et si jamais vos élus ont compris ce qu'on vient de dire, on ne peut pas refuser de voter contre un compte administratif. C'est un compte de réalisation. Donc, voter contre un compte administratif, c'est ridicule. Ça ne signifie rien du tout que... Une opposition constructive ne peut pas voter contre un compte administratif. Elle peut voter contre le budget prévisible, ça, il y a un problème, c'est pas d'accord. Mais contre un compte administratif, c'est ridicule. C'est juste de vérifier que le maire a fait la même chose que le comptable, qu'il a réalisé la même chose et que les comptes sont bons. C'est tout. Je veux dire, après, ils vont pas contester quoi que ce soit par rapport à ce qui est réalisé, puisque de toute façon, c'est par rapport à ce qui avait été engagé. Donc, quand vous avez des élus qui votent contre un compte administratif, vous nous les envoyez en formation.
Comment vous...
On veut bien vous les envoyer en formation, mais qui paye la formation?
Ben, vous.
Ben, c'est justement vos dépenses obligatoires.
Répétez-vous ce que vous avez dit. Répétez-vous.
Celles sont à l'application des restes à réaliser.
Non, non.
À des recettes,
vous voulez dire.
Il y a...
Merci. On vous passe en reste à réaliser 1,2 million. Et on vous dit que ça va être couvert par des subventions à recevoir ou par des emprunts qui ne sont pas encore signés, mais qui devraient l'être. Il peut y avoir une discussion.
Ah oui. Oui, mais elle est au niveau du budget, elle n'est pas au niveau du compte administratif.
C'est bien une réaction, puisque le reste à réaliser est bien au compte administratif.
Non. Oui. Non, non. Oui, non. Il est avec l'affectation de... Non, le corps. Le compte administratif, c'est les dépenses et les recettes réellement effectuées dans l'année. C'est-à-dire, c'est les titres.
D'accord, mais le calcul du résultat les... reporté, il y a
alors, bien. Alors, par contre, au niveau de l'affectation du résultat.
Ah oui, bien sûr.
Non, non. C'est 2 délibérations différentes.
Peut-être, mais c'est un même sujet.
Non, enfin, le compte administratif, du moment où on vous a expliqué que toutes les décisions budgétaires, c'est le conseil municipal. Sauf. Un conseiller qui est contre la politique de la mairie, il vote contre, il votera contre le budget. Le compte administratif, c'est, à un moment donné, on a donné l'autorisation au maire de dépenser 100. Il a dépensé 100. C'est le compte administratif. Et le comptable a intégré les 100. Bon, qu'on n'ait pas été d'accord avec lui au départ au niveau du budget primitif, c'est une chose. Et qu'on ait voté contre le budget primitif, c'est une chose. Mais là, dans l'exécution, il a exécuté ce qu'on lui a dit d'exécuter. C'est un peu comme, vous parliez de l'État en début de séance. L'État, il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. Il n'y a jamais eu de problème sur un vote de loi de règlement avec l'alternance politique. On n'a jamais vu ni la droite ni la gauche refuser de voter la loi de règlement qui est le compte administratif de l'État. On n'a jamais vu voter contre. Alors qu'ils auraient pu. Et l'incidence que ça aurait eu, rien du tout. Puisque c'est exécuté. Donc, que des gens votent un compte administratif ou un compte de gestion, je ne vois plus. Je vois pas. Par contre, sur l'affectation des résultats, là, en effet, il peut y avoir, étant donné que les restes à réaliser sont montés par le maire, on est bien d'accord. Hein? C'est le maire qui fait l'état des restes à réaliser, ce n'est pas le conseil municipal. Donc, là, en effet, les conseillers peuvent poser des questions sur la pertinence de telles sommes inscrites sur les restes à réaliser. Est-ce que c'est vraiment engagé? Est-ce que ce n'est pas engagé, etc. Non, mais. C'est l'affectation du résultat. C'est pas le compte administratif.
C'est deux délibérations.
C'est deux délibérations.
C'est deux délibérations différentes.
Mais à quoi ça sert de le voter si on a oublié de voter pour ?
C'est la loi.
C'est la loi, c'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. La Chambre régionale des comptes a été saisie dans le cadre d'un refus d'une de mes communes. La réponse était un peu.
Tant pis.
Ils sont bêtes. Ça a été, je traduis à peine, mais c'était ça. Je veux dire, c'est une formalité. Votre rôle. C'est le nouveau budget, c'est éventuellement les restes à réaliser dans le cadre du nouveau budget. C'est là où votre rôle est, mais c'est dans le cadre du budget. Le reste, comme vous savez, Paul, droite-gauche ont toujours voté les lois de règlement. Bon, c'est pas la peine de s'embarquer dans, entre guillemets, un petit contentieux. La Chambre régionale des comptes avait l'air de sourire. Tout mais elle a pris une décision comme ça, terriblement motivée. Ouais. C'est ça, mais bon.
Alors, ça peut jouer si par exemple nous on a fait une modification à l'époque, on ne pourra plus avec le PSD2, mais si on a fait une modification de compte, etc., mais ça joue sur les. Au lieu du 606 23, nous on aurait mis au 604 et nous vous aurez regardé au 606. Voilà. Mais ça ne sera plus possible avec le PSD2 de toute façon. Mais ça c'est vraiment des jeux. Et sur les masses, il n'y a pas de problème.
C'est bon, vous n'avez plus de questions à poser.
Merci beaucoup pour votre attention. Merci Monsieur Tosi, Monsieur Bardot pour votre clarté de présentation. Merci pour remplir la petite feuille pour l'évaluation.